Voyage 455 en balade à Sulawesi avec Wan Chai.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end.
Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, votre podcast sur le voyage. Dans cet épisode, eh bien, j'aurais dû vous parler de la Bolivie avec Alain. Et puis, comble malchance, pour la première fois sur VoyageCast, hein, ça va sur 55 épisodes avoir un défaut d'enregistrement, ça va encore. Mais malheureusement, je sais pas ce qu'il y a eu, un gros problème. Le son, mon son, n'a pas passé. Donc on entendait ce pauvre Alain qui parlait tout seul et en plus avec une qualité extrêmement mauvaise. Alors, pour excuse, on était en direct avec Buenos Aires, donc voilà, la connexion était un peu aléatoire, c'était pas évident. On le refera, cet épisode-là, quand on aura le temps. Malheureusement, ben voilà, il est parti dans les oubliettes du net, quelque part. Peut-être que je demande à la NSA, ils auront peut-être une copie quelque part. Bonne idée. Peut-être Voyage 456 sera-t-il ce podcast-là. Bref, trêve de plaisanterie, je suis cette fois avec Laurent, qui a un blog qui s'appelle One Chai, que je vous encourage à visiter, on en parlera un peu pendant le podcast, et on a décidé de parler de Sulawesi, où il a été. Sulawesi, ça vous dit rien? C'est pas vraiment étonnant, parce que c'est en Indonésie, et puis quand on parle de l'Indonésie, on parle plutôt de Bali ou de Java, qui sont les endroits les plus connus, et rarement de cette île qui est pourtant extrêmement intéressante. On a commencé par le sud de l'île, avec Makassar, on est parti en pays Toraja, dans les montagnes, avec des peuplades aux rites assez spécifiques encore pour nous, assez spéciales. C'est très intéressant, on a passé beaucoup de temps hein, sur certaines cérémonies, mais je suis sûr que ça va vous intéresser, ça va peut-être même vous donner envie d'y aller. Et puis ensuite, on est remonté dans le pays, vers le centre, vers Pozo, et puis on a été dans les îles de Togean, qui ont un petit air de Maldives, Philippines, un endroit qui a l'air vraiment magnifique pour aller faire de la plongée. Et puis ensuite, on est parti sur Gorontalo, au bord de la mer, pour finir à la capitale de Manado, sans oublier de faire une petite escale à Tangkoko pour aller dire salut au tarsier. Et puis pendant qu'on y était, on avait un peu faim, on s'est arrêté au marché de Tomohon où on a goûté des trucs... Ouais, enfin vous verrez bien, vous entendrez. Bref, bienvenue au soleil de l'Indonésie, on est avec Laurent et bonne interview.
Et faites-leur passer un moment agréable.
Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan comme d'habitude et puis aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Laurent. Salut Laurent.
Salut Jonathan.
Alors comment ça va aujourd'hui?
Bah écoute, ça va très bien. Forcément, un jour où on répond aux questions de Jonathan sur VoyageCast, ça ne peut que aller très bien.
Alors ça, tu me diras à la fin de l'interview. Alors, où est-ce que tu es, Laurent?
Je suis à Paris, tranquillement chez moi.
C'est cool. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Indonésie. Pas toute l'Indonésie, parce que c'est vraiment très très grand. On va déjà parler d'une partie de l'Indonésie qui est assez grande. Mais d'abord, tu es blogueur sur un blog qui s'appelle One Chai.
Tout à fait, oui.
One Chai, c'est pourquoi t'aimes le thé chai?
Ça vient d'où? C'est venu, les premiers voyages. Mon premier voyage qui m'a vraiment marqué, ça a été un voyage en Inde. Et donc en Inde, le thé, c'est le chai.
Mm-hmm.
C'est quelque chose qu'on entend. Enfin, d'ailleurs, c'est assez éloigné du thé qu'on boit chez nous.
Et c'est partout différent en plus en Inde.
Le mélange d'épices, oui, est assez variable. Mais c'est quelque chose qui m'avait marqué. Enfin, quand on arrive en Inde la première fois, on est quand même, pour la plupart des gens, un peu perdu. Enfin, c'était mon cas en tout cas.
Même chose.
Et d'entendre en permanence dans les couloirs de l'hôtel, dans le couloir du train, le chaiwala qui passe et qui crie chai, 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 ça m'avait marqué. Et alors bon, après, comme j'imagine la plupart des blogueurs, j'ai mis un temps fou à réfléchir quel nom j'allais bien choisir pour mon blog et je suis arrivé travailler sur ça. Et je suis plutôt content de moi après coup, parce qu'on a toujours tendance au début à chercher des noms où on va mettre voyage ou je sais pas trop quoi.
Genre Voyagecast, par exemple.
Voilà,
par exemple. Ceux qui n'ont pas du tout d'imagination.
Du coup, c'est vrai que le nom là est un peu plus marqué, comme une marque, en fait, en quelque sorte. Mm-hmm. Je suis content d'avoir choisi ça. Le nom est court.
C'est très sympa. Et d'ailleurs, on aime bien ton blog. Enfin, j'aime bien le lire. On s'était croisé de peu avec moi un podcast sur la Syrie avec Laurent Houssin. Et puis après toi, je sais plus, à quelques jours d'intervalle, t'avais aussi écrit sur la Syrie.
Exactement. Ouais.
T'as été aussi aux Philippines. Hein. Je vous encourage à aller lire son billet, son article sur Banaoui. C'est très intéressant, des jolies photos. Et puis, ben voilà, t'es connu. Alors quand même, on sait pas trop pourquoi, mais pour te faire voler ou perdre tes appareils photo, visiblement, si j'ai bien compris.
C'est une de mes spécialités, pas la seule, mais
c'est une spécialité assez chère, mais l'avantage, c'est que tu vas pas te la faire piquer par les autres blogueurs. C'est pas mal.
c'est vrai, mais je progresse, tu vois. J'ai changé mon matériel photo à l'automne et de mémoire, en fait, c'est la première fois que je rachète du matériel photo tout en ayant encore le matériel que j'avais avant. Donc, je progresse.
Donc, ça s'améliore, c'est très bien.
Voilà.
C'est chouette. On va, en tout cas, des jolis petits billets. On va peut-être en parler durant le podcast, mais il y en a un avec des biscuits un peu bizarres que tu as goûté justement en Indonésie. Mais je laisserai les auditeurs aller visiter ton site pour aller lire quelques articles. Justement, aujourd'hui, on va s'arrêter un peu en Indonésie. Tu as été deux fois en Indonésie, tu me l'as dit, 2010-2011. Tu as été où en Indonésie spécifiquement? Parce que c'est très grand, hein.
Alors, la première fois, en 2010, je suis resté un mois sur l'île de Java, donc arrivé à Jakarta. C'est l'île la plus peuplée d'Indonésie, Java, parce qu'en termes de densité de population, je crois que c'est une des plus élevées du monde. Hein. L'Indonésie au complet fait 240 millions d'habitants et il y en a plus de 130 millions à Java. Alors qu'en termes de surface, Java, ça fait quelque chose comme 130 000 km², en comparaison de la France qui fait 500 000, ça donne une idée de... Enfin, il y a du monde partout. Ça doit être à peu près comparable au Bangladesh, quoi. Oui, la deuxième fois, donc je suis allé à Sulawesi. Alors, je ne sais jamais trop comment on dit en français les célèbres.
Oui, j'allais te poser la question, justement.
En général, on voit ça traduit comme les célèbres. Et c'est effectivement célèbre, c'est un nom que je connaissais avant d'y aller. Sulawesi, non, que je ne sais pas trop, à vrai dire. Enfin, Wikipédia parle de Sulawesi, il me semble.
D'accord. Eh ben, on va faire confiance à Wikipédia qui a, comme on le sait tous, toujours raison. non, c'est très bien, Wikipédia. Alors, justement... Sulawesi, bon, une grande île quand même, tu m'as dit, c'est à peu près la moitié de la France, pour qu'on se donne une idée.
Oui, ça fait un peu moins de la moitié de la France. Et alors là, par contre, c'est beaucoup plus campagnard, on va dire, parce qu'il y a 18 millions d'habitants à Sulawesi.
Ah ouais, d'accord.
C'est un gros contraste par rapport à Java, où quand tu prends des transports le long de la route, tu as un peu l'impression d'être en ville en permanence. En fait, il y a toujours des habitations le long. Là, ce n'est pas du tout le cas, quoi. On est dans la jungle, dans les montagnes régulièrement quand on se déplace. Et du coup, les déplacements ne sont pas freinés par la circulation et les embouteillages comme à Java, mais ça ne va quand même pas très vite parce que les routes... Enfin voilà, quoi, c'est des routes de montagne.
Sont plus ou moins bonnes. Pour vous faire une idée, hein, l'île, elle a une forme quand même extrêmement spéciale. Ça ressemble à un K, tu l'as dit. Et effectivement, ça ressemble à un K. On a presque l'impression que si on prenait une photo comme ça, il y aurait autant de terre que d'eau, si ce n'est plus d'eau que de terre, en fait.
C'est ça, oui. D'ailleurs, j'ai lu, je l'avais pas entendu quand j'y suis allé, mais j'ai lu récemment qu'une des explications possibles du nom serait Sulawesi, qui vient de je ne sais plus trop quoi, et liée à une langue locale qui parlerait, qui serait en association à la forme de l'île. Mais ça semble peu probable, en fait, parce que
les mecs pouvaient pas trop savoir la forme de l'île où ils étaient, c'est ça?
Exactement. Google Images ne fonctionnait pas très bien chez eux, donc voilà, ils connaissaient pas la forme de l'île, a priori. Mais
c'est peut-être les extraterrestres qui ont construit les pyramides, qui les ont aidés. On ne sait pas, et c'est pas VHK qui va vous l'apprendre, malheureusement.
Il faudra aller sur d'autres blogs pour ça.
Exactement. Bon, voilà, on rigole, mais on perd du temps. Alors déjà, est-ce que tu as moyen, depuis la France, d'arriver directement sur cette île-là? Ou est-ce
non.
que tu dois passer par plusieurs endroits?
Non, depuis la France, on trouve pas de vols qui vont directement à Sulawesi. Donc les deux options les plus simples pour y aller, c'est soit de prendre un vol pour Jakarta, soit un vol pour Denpasar sur l'île de Bali, qui sont les deux destinations avec des prix plus avantageux depuis la France. Et après, en fait, on prend des vols de compagnies locales pour relier donc soit Jakarta, soit Denpasar, pour aller à Makassar, qui se trouve donc au sud de l'île, ou à Manado, qui se trouve au nord. La plupart des gens arrivent à l'un des deux et rentrent depuis le second, parce qu'on ne va pas faire l'aller-retour. La forme de l'île ne se prête absolument pas à faire un circuit. Donc, on arrive à un endroit, on repart de l'autre.
Ça semble effectivement assez logique, ouais. Alors, toi, tu as choisi d'aller à Makassar, justement, donc au sud, pour remonter au nord.
Tout à fait.
Alors, tu nous as dit que c'était pas très peuplé, mais on imagine quand même que s'il y a un aéroport, ça doit quand même être grand, la ville de Makassar. Ça ressemble à quoi ?
Ouais, alors je ne saurais pas dire le nombre d'habitants qu'il y a à Makassar, mais effectivement, la ville est quand même assez grande et ça a été un peu la grosse surprise en arrivant à l'aéroport. Donc c'était en 2011, l'aéroport était relativement récent et on débarque dans un aéroport énorme, flambant neuf. Moi, je m'attendais un peu au petit aéroport de province où tout est très rustique et où les tracteurs avec la remorque vont chercher les bagages dans l'avion. Enfin, ce qu'on trouve souvent quand on prend des lignes intérieures, en fait, dans un certain nombre de pays. Et là, non, c'est flambant neuf. Et d'ailleurs, pour revenir aux moyens de transport pour se rendre là, pour ceux qui seraient intéressés pour aller à Sulawesi, il ne faut surtout pas acheter, depuis une agence de voyage sur Internet, tous les billets d'avion pour aller jusque Sulawesi, en fait. Hein, parce que si on passe par les moteurs de recherche sur Internet, ils vont vous vendre à un prix complètement délirant le vol intérieur pour aller de Jakarta à Makassar. Donc, il faut acheter un billet pour Jakarta ou Denpasar. Et après, en allant directement sur les sites des compagnies indonésiennes, acheter le billet directement via la compagnie. Alors, il y a souvent des problèmes pour payer avec les cartes bancaires, mais maintenant, on peut via PayPal. Donc, on a les billets pour moitié prix par rapport à une agence de voyage sur Internet occidentale.
Oh ouais, c'est pas mal, ouais. Alors, tu disais population, hein, Wikipédia dit à peu près 1,3 million de personnes, donc quand même une jolie ville. Hein.
À Makassar, d'accord.
Ouais. Makassar, bon, ça a l'air d'être assez moderne par endroit, tu l'as dit. Étrangement, je trouve assez peu de photos sur Internet. C'est bizarre, de la ville en elle-même.
Oui,
en fait.
Bah les gens n'y restent pas. Hein. C'est pas excessivement intéressant. De mémoire, il reste un fort qui date de l'époque coloniale, qui s'appelle d'ailleurs le Fort Rotterdam, qu'on va visiter en général si on est là, si on a un peu de temps à tuer. Mais c'est pas un endroit où on reste. C'est pas agréable. Il y a pas grand chose à voir. Moi, j'avais eu de la chance quand je suis arrivé. Il y avait une sorte de petit festival, donc c'était la fête le soir au bord de l'eau, donc c'était marrant. Mais voilà, je suis arrivé l'après-midi, j'ai passé une nuit là et le lendemain, j'ai pris un bus pour commencer à remonter vers le nord, vers le pays Toraja.
Ok, sur la ville, donc on restera pas trop longtemps. Prendre le bus pour aller au pays ?
Le pays Toraja. Donc.
C'est quoi ça ?
Les Toraja, c'est alors je ne suis pas anthropologue, donc ethnie est sans doute pas le mot approprié, mais ce sont les habitants qui habitent donc autour de Rantepao, dans les montagnes de Sulawesi. Donc c'est au nord de Makassar, je saurais pas dire en kilomètres, mais c'est une dizaine d'heures de route en bus. Mm-hmm. Et donc là, on se retrouve vraiment dans les montagnes. C'est très différent des villes de la côte, en particulier de Makassar, parce que Makassar, comme le reste de l'Indonésie, est à majorité musulmane, alors que le pays Toraja est pour moitié chrétien et pour moitié animiste. Enfin, il y a quelques musulmans aussi qui sont arrivés maintenant. Mais disons que la plupart des musulmans qui sont arrivés à Sulawesi, d'une manière générale, en fait, ce sont des Indonésiens venant de Java ou d'autres îles, parce que l'Indonésie a une politique, en quelque sorte, colonisation, je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais vu qu'il y a trop de monde à Java, on donne de l'argent aux Javanais pour aller s'installer sur d'autres îles, en fait, où il y a moins de monde.
Ah ouais, d'accord.
Et ça pose souvent pas mal de problèmes, d'ailleurs.
Parce que c'est pas les mêmes populations, hein, c'est ça ?
Bah, en particulier quand culturellement c'est pas le même mode de fonctionnement. Tant que les pourcentages, on va dire, sont modestes, ça va. Mais si t'envoies beaucoup de Javanais sur une île où il y a pas grand monde et qu'au bout de 10 ans il y a plus de Javanais que les habitants d'origine de l'île, forcément ça crée des tensions. C'est pas simple.
Ouais, pas évident. Quand tu parles de ces, alors tu as dit le terme ethnie, voilà. Est-ce qu'ils sont différents de l'indonésien? Est-ce qu'ils vivent dans des maisons différentes? Est-ce qu'ils ont
Oui, alors ils vivent. Alors si j'ai bonne mémoire, le mot Toraja veut dire les gens d'en haut dans la langue des Toraja, parce que voilà, ils sont dans les montagnes. Alors ils habitent dans des maisons qui sont absolument magnifiques. Ça ressemble un peu à la coque d'un bateau. Enfin, le toit ressemble un peu à la coque d'un bateau avec l'arête sumitale du toit qui est tout arrondi, qui remonte énormément sur les coins. On appelle ça des tonkana, les maisons des Toraja. Et quand on en voit qu'ils sont en construction, c'est impressionnant, quoi. Il y a tout un système d'échafaudage. Pour tenir le tout, et c'est un des attraits de cette région, de voir ces magnifiques maisons. Certaines, par endroits, se sont un peu transformées en village touristique, on va dire.
Forcément, quand on voit la forme des trucs, c'est vrai que c'est très très beau, et ouais, ça doit faire des jolis petits hôtels, on s'imagine.
Alors, des hôtels, je sais, oui, il y en a forcément, mais j'en ai pas vu plus que ça. Mais on trouve aussi, enfin, on en trouve régulièrement quand on se promène dans la région, de ceux qui sont en construction et pour des familles, quoi, qui vont habiter là-bas. Disons que l'île, forcément, comme le monde entier, j'allais dire, s'occidentalise, mais garde quand même un attachement assez fort à sa culture. En partie, je dirais, puisque les 50% de chrétiens du pays Toraja sont devenus chrétiens quand les Hollandais sont arrivés là. Il n'y avait pas de chrétiens avant à Sulawesi. Donc ce sont des missionnaires hollandais qui ont œuvré.
Ouais, d'ailleurs, ces maisons sont sur pilotis, hein.
C'est ça. Donc il y a deux catégories en fait dans les villages qui sont en général de part et d'autre d'une sorte d'allée centrale du village. D'un côté on a les maisons à proprement parler et en face on a les mêmes, elles ont la même forme, elles sont un peu plus petites, en fait ce sont les greniers pour stocker le riz et les diverses récoltes.
D'accord, bah en tout cas franchement c'est très très beau, hein. J'essaierai de mettre une photo sur voyagecast.ch, tu en as aussi chez toi, hein, des photos.
Oui, tout à fait.
Parce que je les ai vues. Je mettrai les liens parce que c'est vraiment très très joli, ça donne envie. Là, je suis en train de broser un peu les images pendant que tu nous parles et je suis tombé sur un truc bizarre qui s'appelle la terre des morts. Alors explique-nous ça, ça a l'air très très bizarre.
Bah c'est quelque chose qu'on est amené à voir en général. Tout dépend à quelle saison on va en pays Toraja, mais les habitants de cette région accordent une importance assez incroyable au rite funéraire. Mmh. Ils considèrent que l'enterrement de quelqu'un doit être quelque chose d'une part fastueux et d'extrêmement réussi. Et si ce n'est pas réussi, en fait, ils craignent que ça ait un impact, un mauvais impact sur eux, sur leur vie et sur les récoltes en particulier. Donc, quand quelqu'un meurt en pays Toraja, on ne l'enterre pas tout de suite, en fait. On garde le corps dans la maison, on l'embaume. Et l'enterrement ne se fera que durant la saison sèche, donc le pic de la période des enterrements, c'est juillet-août. Donc quand on y va en tant que touriste, c'est pas mal, parce que c'est justement, on y va justement, voilà, on y va pendant la saison sèche. À noter au passage, sèche, sec est un concept tout relatif à Sulawesi.
On est sur des îles de toute façon, hein, ouais.
Oui, le climat en Indonésie, de manière générale, est quand même relativement tropical. Bien qu'il y ait une saison sèche, une saison humide, même en saison sèche, on n'est pas à l'abri de se ramasser des seaux d'eau sur la figure. Et dans les montagnes, encore plus. Enfin, je ne sais plus à quelle période, toi, tu étais allé aux Philippines.
Moi, j'y suis allé fin décembre, début janvier, mais à Palawan, je me suis chopé aussi une bonne pluie. Il y a eu une journée comme ça où il y avait un peu de la pluie. Dans les montagnes, ça a été, je n'ai pas eu le truc, mais bon, c'est pas grave, quoi.
Ouais. À Banao, je m'étais ramassé de la flotte, alors que normalement, j'étais durant la saison sèche, la saison la moins humide, quoi. Dès qu'on est en montagne, en pays tropical, les montagnes, enfin, je ne suis pas expert météo, mais les montagnes, en quelque sorte, créent leurs nuages et voilà, il pleut, quoi.
Ces trucs des morts, là, ils font des cérémonies ou...
Alors, quand on a décidé si quelqu'un meurt au mois de janvier, par exemple, on va l'embaumer et on va attendre donc au plus tôt, juillet-août, pour l'enterrer. Et des fois, c'est même pas le juillet-août de l'année là, ce sera l'année d'après en fait, parce que c'est tellement fastueux, les enterrements, que ça coûte énormément d'argent. Donc il faut réussir à rassembler la somme nécessaire pour ça. Il faut que toute la famille vienne aussi, donc visiblement, il y a quand même pas mal d'Indonésiens originaires de Sulawesi qui vivent aux quatre coins du monde, pas mal en Australie, paraît-il. Donc, ils vont rentrer, pas tous évidemment, mais un certain nombre va rentrer et vouloir assister à cet enterrement. Et après, on invite tout le village et tous les villages aux alentours. Enfin, c'est un peu, je dirais, entre guillemets, on se la pète aussi un peu. Enfin, voilà, il faut montrer quand même une certaine opulence. Enfin, c'est quelque chose d'assez commun en Asie.
C'est un événement vraiment très, très important. Ouais.
Voilà, tout à fait. Et la chose la plus curieuse, en fait, c'est que même en tant que touriste, on va aux funérailles d'une personne. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'avait un peu intrigué au début. Bon, on dit ça dans ton guide de voyage, que tu peux aller aux funérailles. Alors, je dis, ok, d'accord, mais bon, ça paraît pour les moins saugrenus. En fait, t'imagines, t'enterres ta grand-mère et il y a un quart de touristes japonais qui débarquent pour prendre des photos dans l'église. Bon, tu vas moyennement apprécier.
C'est original, mais voilà, j'apprécierais pas forcément, effectivement.
C'est ni le moment ni l'heure, quoi.
C'est ça, ouais.
Là, ça ne pose pas de problème. Donc, il faut venir avec quelque chose à offrir, parce que tous les invités vont venir avec des offrandes, alors pareil, plus ou moins chères, suivant qui veulent montrer plus ou moins leur influence et leur richesse. Mm-hmm. Donc toi, quand tu vas en tant que touriste, en général, on te demande de ramener soit du sucre, soit une cartouche de cigarette. C'est le grand classique.
Ok.
Et donc voilà, il suffit de savoir. Donc quand on est à Rantepao, qui est le centre, la ville principale au pays Toraja, dans tous les hôtels où logent les touristes et voyageurs, bon, il y a toujours des tableaux à droite à gauche où c'est écrit, tel jour, dans tel village, il y a des funérailles, donc vous pouvez y aller. Alors beaucoup de touristes y vont comme ça, tout seul. Moi j'avais préféré prendre une guide quand même pour y aller. Je prends pas très souvent de guide en voyage parce que bon, il y a plein de choses que j'apprends pas. Le fait de ne pas avoir de guide, ça c'est un côté regrettable effectivement, mais j'aime bien avoir un côté assez contemplatif, rester dans un coin, prendre mon temps.
Ouais, j'aime bien ça aussi, quitte à après me renseigner après sur ce que j'ai vu.
Voilà, c'est ça. Alors après, ça dépend. Il y a des guides, la majorité même, qui sont adorables. Mais enfin voilà, t'as quelqu'un sur le dos, j'ai pas forcément envie de ça. Mais là, je me suis dit, bon, je vais prendre une guide. Je me vois pas débarquer comme ça, en tant que blanc-bec, avec ma cartouche de cigarette, à l'enterrement d'un gars.
T'as quand même l'impression de pas être à ta place, ouais.
Voilà, exactement. Ça donne l'impression de voyeurisme. Voilà.
Quand même, ouais.
Donc, je suis parti avec ma guide dans ce village et ma cartouche de cigarette. Et là, tu arrives. La guide te présente à la maîtresse de maison qui très polie, prend la peine de discuter, pas une heure, mais cinq minutes avec toi. Parce qu'il y a des centaines de personnes qui sont présentes pour ces funérailles. Donc, justement, les maisons que tu as pu voir sur les photos, le rez-de-chaussée, c'est une sorte de plateforme. Pour les greniers, c'est pareil. Donc, les gens s'assiedent sur ces plateformes. Mais ça ne suffit pas. Donc, on érige plein d'autres plateformes dans le village en bambou qui sont couvertes. Pour que tout le monde puisse venir, ça dure plusieurs jours, trois jours si j'ai bonne mémoire, minimum. Je ne sais plus trop ce qui se passe la première journée. Moi, j'y suis allé la deuxième journée. C'est le point d'orgue de la cérémonie, puisque la deuxième journée, c'est là qu'on procède au sacrifice des buffles.
Je vois des photos. Voilà, c'est ça. Je me demandais justement ce que c'était. Il y a vraiment des photos où, ouais, il y a pas mal de buffles morts qu'on mange visiblement après, c'est ça?
Oui. Alors là, c'est, je dirais, âme sensible s'abstenir. Hein. C'est vraiment trash.
Oui, les photos sont... J'ai déjà mangé, ça me dérange pas, mais effectivement, sur le moment de le vivre, ça doit faire très étrange, surtout pour nous, en Occident, où on a perdu ce contact un peu quand même avec les animaux morts et tout ça. On... On en voit rarement.
Ouais, tu vois, enfin moi, quand je suis arrivé à ce village, je suis arrivé, les buffles, il y en avait 8 ou 9, je crois, venaient juste d'être égorgés. Et la guide me dit, oh mince, on est en retard, on est arrivé un peu trop tard. Quand j'ai vu déjà à quoi ça ressemblait, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas plus mal qu'on arrive seulement maintenant.
J'ai pas tant raté quelque chose. Parce qu'il m'avait, je sors un peu du truc, mais en Afrique, c'était au Niger. Il y avait un endroit, justement, un marché aux bestiaux, et ils avaient justement tué une vache. C'était la première fois que je voyais tuer une vache, et donc où ils lui coupent la jugulaire. Et j'avais été impressionné par le nombre de litres de sang qu'il peut avoir dans une vache. C'est franchement, nos grands-parents, ils se foutraient de notre gueule parce qu'ils voyaient ça tous les jours. Mais
oui, bah oui.
Moi, j'avais jamais vu ça, et sur le moment, c'est quand même assez surprenant, quoi. Mais bon, enfin, ça peut peut-être nous remettre en contact avec des choses qu'on a oubliées aussi. C'est important. Enfin, on mange de la viande, après tout, c'est de là que ça vient, quoi.
Oui, oui,
mais
c'est
effectivement,
vrai.
C'est particulier quand il y en a 8 ou 9, et voilà.
Bah, disons, alors là, quand je suis arrivé, le sang ne coulait plus, les peaux avaient été enlevées, et ils commençaient donc à débiter les bêtes. Donc tu vois les hommes avec des haches et des machettes, etc., qui sont en train de découper tout ça. Alors il y a forcément, avec tout ce sang, plus les tripes, il y a une odeur qui est quand même... un peu, enfin, j'ai souvenir quand... Alors c'est pareil, au début je regardais, bon déjà un peu, enfin choqué, c'est pas le mot, j'exagère, mais enfin voilà, t'es quand même...
On est impressionné forcément, c'est, on voit pas ça tous les jours. Hein.
Donc moi, j'adore prendre des photos, j'ai quand même attendu un peu, je me suis dit, enfin je vais pas débarquer devant les mecs, là, les prendre en photo, enfin voilà, c'est pas Disneyland ici, c'est des funérailles. Alors bon, j'ai fini après par tourner un peu autour, prendre des photos, et quand tu t'approches un peu, enfin il y a quand même une odeur qui se dégage, qui bon ça voilà.
S'il fait chaud en plus.
Oui, donc faut s'accrocher. Et puis alors tu vois les mecs, ils sont pieds nus, ils ont les pieds qui baignent dans le sang, ça se fait, enfin au sol c'est pas du béton, c'est la terre avec de l'herbe, et donc t'as toutes ces bêtes qui sont étalées, qu'on est en train de découper dans tous les sens. T'as les gosses qui sont au milieu de tout ça. J'ai souvenir, j'avais pris... je crois que je l'ai mis dans l'article que j'ai écrit sur ça, sur le blog, sur les funérailles. Il y a un gamin qui avait récupéré les pattes, les sabots d'un buffle, qui les avait attachés avec une ficelle. Et tu vois, comme il traînait ça derrière lui, c'était son jouet, quoi.
Effectivement, la photo est sur ton blog. C'est très particulier tout de même.
Ah, c'est surprenant, oui. Je sais que j'avais discuté avec pas mal d'autres voyageurs, dont certains étaient végétariens par conviction.
Ils vont le rester, là.
Dans le sens. Et ils disaient, oui, voilà, quand même, j'ai eu du mal.
Ouais, effectivement. Non, c'est très, très spécial. Hein. Bon, alors voilà, ils coupent ces animaux, etc. Après, je suppose qu'on les mange et on les partage avec tous ceux qui sont là.
Alors, bah, ce qui se passe, en fait, il y a le maître de cérémonie qui va prendre les morceaux qui ont été débités un par un de différentes tailles, et qui va annoncer, bah voilà, tel morceau c'est pour tel village, tel morceau c'est pour tel village. Ils vont pas être mangés sur place. Les gens vont partir. Ah ouais. Avec le morceau de viande. Alors sur place, on mange quand même. On se fait, enfin quand on arrive déjà, on t'offre à boire un thé ou quelque chose comme ça. Il y a des serveuses qui défilent, tout est très bien organisé. Et après, si tu arrives, si tu es encore là à l'heure du déjeuner, on va te donner à manger. Donc, en général, on te donne à manger, c'est une spécialité locale. En fait, on cuit de la viande de porc dans du bambou. On remplit le tube de bambou de viande. Mm-hmm. On fait cuire ça au feu ou au four pendant assez longtemps, si j'ai bonne mémoire. Je suis pas très fort en cuisine, mais et après on te sert ça avec du riz. C'est pas mauvais, c'est un peu épicé, enfin celui qu'on m'a servi en tout cas était assez bon. Voilà, la viande est beaucoup cuite, manifestement quand même pas assez, parce que le lendemain, les 3 jours qui suivent, j'ai été bien malade.
Ouais. Bon, tu notes que tu as bu du vin de palme. Ça peut être ça aussi. T'en as bu combien de litres, honnêtement, entre nous, Laurent?
Le jour-là, pas trop, parce que ils m'en ont offert, qui était, alors peut-être que eux le trouvaient très bon, je ne sais pas, mais il était particulièrement amer. C'est vrai qu'on trouve énormément de vin de palme partout à Sulawesi pour des sommes dérisoires. En fait, tu vas à l'épicerie et t'en achètes. Et c'est très marrant, on te vend le vin de palme dans un sac en plastique. Tu vois, comme quand tu achètes un poisson rouge chez le marchand de poisson rouge, tu as ton petit sac en plastique avec ton poisson rouge qui est dans de l'eau. Bah là, tu as ton sac en plastique. On ne met pas ça dans une bouteille, quoi. Donc, si tu mets ça dans ton sac et puis que quelqu'un te fait une bonne blague et tu as peur sur ton sac,
voilà. J'imagine le résultat.
Donc, mais la plupart du temps, les gens boivent, enfin les touristes, les locaux, j'en sais rien, les touristes boivent ça avec du tonique et c'est pas mauvais, mais bon, voilà, faut pas, c'est comme tout, si on en abuse.
Forcément, oui, forcément. Puis la chaleur, ça aide pas non plus avec l'alcool.
Non, pas vraiment.
Voilà, alors premier jour, voilà, c'est un peu ce qui se passe. Le mort, tu le vois ou tu le vois pas du coup, parce qu'on n'a pas parlé de ça en fait. Il l'enterre ce jour-là ou?
Alors non, il l'enterre le troisième jour ou après, je ne sais plus trop. Enfin, ils ne l'ont pas enterré le jour où j'étais là. Donc là, c'est pareil pour l'enterrer. Il y a tout...
Remarque, je dis l'enterrer et ça doit être faux.
Si, il l'enterre. Alors, ça dépend. Il y a deux solutions. Il y a pas mal de corps qui sont, donc non pas enterrés, mais entreposés dans leur cercueil, dans des grottes qu'on trouve dans la région. En fait, quand tu es allé aux Philippines, t'étais allé à Sagada ?
Non, j'ai pas eu le temps parce que j'avais mon avion qui partait, mais il y a effectivement à Sagada, cercueils qui sont mis en hauteur.
C'est pareil. Donc là, il y a la même chose. Il y a des cercueils. Alors, dans un premier temps, ils mettaient les cercueils dans des grottes. Donc, il y a toute une série de villages où tu vas visiter les grottes, tu rentres dans la grotte et les cercueils avec le temps se sont décomposés et tu as des squelettes partout et tu as des empilements de crânes.
Ça ressemble à un ossuaire en fait. Hein.
Voilà. Alors, tu as toujours aussi une quantité hallucinante de cigarettes. Là encore, c'est une offrande qui est sans doute auspicieuse, parce qu'on voit ça un peu partout. Donc, c'est la méthode qui était utilisée au départ. Et à côté des grottes, très souvent aussi, il y avait des sortes de petites terrasses où il y avait une réplique en bois du défunt. Qui était là pour t'accueillir, en quelque sorte. Donc ça, il y en a malheureusement de moins en moins, parce que ça revêt une certaine valeur, ces statues. Et donc il y en a qui ont été volées, malheureusement.
Ouais, mais effectivement, il y a des photos aussi là qui sont assez spéciales. Alors je ne sais pas si tu l'as vu, je vois certaines photos qui sont... effectivement, pour nous, c'est quand même très étrange. Tu nous as dit qu'ils étaient embaumés, hein, ces gens, une fois qu'ils étaient morts, qui pouvaient durer plusieurs mois.
Ouais.
Et donc, la personne morte, hein, le cadavre, enfin, est exposé comme ça à la vue de tout le monde. Et ce qui est très particulier, c'est que c'est debout au milieu de tout le monde, en fait. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu ou si c'est peut-être une cérémonie extrêmement spécifique dans un village. Je le dis tout de suite, hein, je ne suis pas anthropologue et je ne me suis pas intéressé à ça. Et c'est les photos que je vois sur Google, mais qui sont effectivement des vraies photos où il y a des gens qui sont habillés. Par exemple, là, je vois un gars en costume, mais qui est clairement mort depuis longtemps. Ou en tout cas, j'espère pour lui, s'il a cette tête-là, qui est exposé comme ça à tout le monde. Il y a une photo d'une femme aussi qui est justement embaumée et laissée comme ça au milieu de tout le monde. Alors, c'est peut-être le transport vers la grotte, ou je sais pas, tu vois, peut-être que tu n'as pas vu, mais en tout cas, c'est très, très particulier tout de même. Hein.
Ouais, j'imagine que alors peut-être, faut peut-être être proche de la famille.
Il doit y avoir plusieurs niveaux.
Peuvent aller voir le défunt, mais j'ai pas souvenir si j'ai parlé de ça avec ma guide. J'ai pas non plus. On va dire, j'ai pas cherché
ça non plus.
Voilà, bien qu'on m'ait répété X fois que voilà, il y a aucun problème. Ok, t'es un touriste, t'es un blanc-bec, mais tu débarques ici, il y a pas de problème. Bon, du début à la fin, j'ai quand même ressenti pas un malaise, mais à me dire, mais oui, enfin quand même, est-ce que ça tient la route que je sois là, quoi. Donc voilà, je suis quand même resté un petit peu une distance respectueuse, on va dire.
Ouais, moi je pense pas que je me sentirais d'aller voir. Alors déjà, un mort que je connais, j'ai toujours suprêmement détesté ça. Je trouve ça extrêmement dérangeant d'aller voir le corps, même si je sais que je respecte les gens qui aiment ça ou qui ont besoin de ça pour dire au revoir à la personne. Mais là, c'est vraiment très, très particulier quand même. Bon, on a parlé beaucoup de mort. Hein. Ça fait déjà ça fait déjà 20 minutes qu'on parle de mort sur Voyage Cast, dis donc. C'est bizarre, mais en tout cas, ça, Enfin, toi, tu dirais, c'est quand même un truc où maintenant que tu l'as fait, tu t'es pas senti spécialement mal ou pas à ta place quand tu étais là.
Non, disons, alors, c'est un côté un peu...
c'est subjectif. Égoïste, hein.
Sans doute, oui, mais enfin, disons, quand je suis arrivé, il y avait un bus de touristes qui était là. Donc, je suis arrivé juste après eux. Bon, c'était un minibus, ils étaient une vingtaine. Donc, je me suis retrouvé à côté. Ça ajoute un peu à la gêne, quoi. T'as vraiment l'impression. Mm-hmm. Voilà, ça. Donc, comme c'est toujours le cas en voyage organisé, les gens défilent assez vite. Donc, ils sont partis assez rapidement. Et je me suis retrouvé tout seul. Donc, bon, c'est un côté très égoïste parce que je suis un touriste comme eux, hein, ni meilleur ni moins bon. Mais du coup, je me sentais moins mal à l'aise de me retrouver là. J'avais moins l'impression que le lieu était envahi de touristes avec leur appareil photo autour du cou qui étaient venus pour faire du tourisme, quoi.
Ouais. Alors, je sais pas si c'est là spécifiquement, mais en Indonésie, à d'autres endroits en tout cas, amener des touristes, et c'est ce qui dérange un peu, parce qu'il y a toujours le problème entre amener quelques touristes et amener 10 quarts de touristes, hein, on sait que c'est le problème dans ce genre de pays où ils ont besoin d'argent aussi, donc forcément, où en fait, inviter un étranger et un blanc, c'est aussi une forme de signe de prestige,
oui,
pour l'enterrement en lui-même, parce que d'ailleurs, ben voilà, il est... entre guillemets tellement important que même un étranger blanc qui n'a rien à faire avec est venu, quoi.
Voilà, oui, effectivement. Effectivement, c'est quelque chose que ma guide m'avait expliqué. Elle me dit, non, mais t'inquiète pas, il n'y a aucun souci pour y aller. Et à condition que tu les respectes en venant avec ta cartouche de cigarette, puis que tu te comportes convenablement, évidemment, ils sont honorés parce que tous les autres invités qui vont venir aux funérailles vont voir, mais regarde, il y a des blancs qui sont là, quoi. Donc, c'est... Bon, je suis assez mal à l'aise vis-à-vis de ça, on va dire, parce que j'ai pas envie de me retrouver. Ça rappelle un peu l'ère coloniale ou ce genre de choses. Pourquoi le blanc aurait un statut différent?
Je suis en train de lire un livre sur l'histoire de l'anthropologie. Et j'ai un podcast sur l'anthropologie qui s'appelle Anthropodcast, et il faut absolument qu'on en parle, parce qu'il y a justement une sorte de critique de cette sensation qu'on a l'impression que les indigènes, entre guillemets, nous prennent pour des dieux, en fait. Et il y a une sorte de critique de ça qui dit qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous sentons supérieurs, et donc, quand on va quelque part, et puis qu'on est bien traité, on a l'impression d'être traité comme un dieu, parce que nous-mêmes, à quelque part, si tu veux, on se prend pour un dieu, quoi. Alors, c'est très très résumé comme façon de faire, et puis là, ils prennent l'exemple du capitaine Cook, qui avait soi-disant été pris pour un dieu, puis était tué après, enfin, c'est super passionnant, et voilà, enfin, cette idée est pas forcément, voilà, absolument juste, mais c'est vrai que c'est étrange. Mais encore, je me dis, si vraiment les gens sont conscients que tu viennes, et l'apprécient, pourquoi pas?
Oui, c'est...
Si toi, tu te sens à l'aise. Moi, par exemple, je ne sais pas si je me sentirais à l'aise.
Je suis
pas certain. Ça demande une vraie réflexion avant même d'y aller, en fait.
C'est toujours compliqué. Hein. C'est le problème dans beaucoup de pays où on est fasciné par notre peau blanche, où on nous prend en photo, etc. Et que blanc, c'est mieux. Et je sais pas. Je suis toujours un peu mal à l'aise.
Je pense que ça dépend de notre propre attitude aussi, je pense. Hein. Enfin, on se connaît pas vraiment, forcément. Je peux pas te juger. Je t'ai jamais vu en vrai, mais je pense que t'as pas un comportement non plus supérieur ou.
J'espère, parce que c'est la plus grande de mes hantises, on va dire.
Ouais, voilà. Mais je pense que rien que le fait de se poser la question, justement, tu te situes pas au niveau des gens qui sont là d'un air tellement supérieur et tellement on est supérieur à eux. Tu vois, donc je pense que ça peut se ressentir aussi, quoi.
Mais d'un autre côté, il faut quand même aussi avouer que quand on est en voyage ou quand on rentre chez nous, même si on a essayé de se mettre le plus possible au même niveau que les gens qu'on est allé rendre visite, il est quand même indéniable qu'on se considère un peu quand même dans une caste supérieure, plus évoluée et qui est plus illuminée et qui va avoir, je caricature, mais le bon sauvage. Je pense qu'on n'arrive jamais à en sortir complètement de cette histoire.
Exactement. On en a parlé justement sur le podcast et j'en avais déjà parlé avec Franck Michel qui est anthropologue. Et effectivement, ça demande un contrôle en fait constant sur nos propres pensées et nos propres sentiments pour ne pas se sentir supérieur, parce que de par notre culture, de par notre éducation, même si elle a été correcte et que je pense que ni toi ni moi on a été éduqués comme étant des êtres supérieurs par rapport aux autres, c'est quasiment un automatisme, en fait, et c'est très compliqué.
Bah oui, oui, on a grandi avec ça. Il y a qu'à voir. Enfin, c'est une réflexion qu'on entend sans arrêt des gens qui rentrent de voyage et puis qui vont sortir. Et je pense que dans 90% du temps, il n'y a aucune méchanceté et aucun racisme dans ça. Ils disent « Ah, ça fait du bien de retourner à la civilisation. » Donc voilà, c'est ça. C'est...
Bon, généralement, ça veut dire « Ça fait du bien que j'arrive dans un endroit où il y a du Wi-Fi qui marche comme il faut. »
Voilà, c'est ça. C'est le niveau de confort auquel on est habitué.
Voilà. Donc, c'est pas forcément toujours si méchamment dit. Je pense qu'il y a beaucoup d'innocence aussi dans oui. les paroles qu'on sort. Mais c'est vrai, c'est des sujets qui sont passionnants et effectivement, dans ce genre de situation, c'est très compliqué, mais je pense que ça peut en même temps amorcer une réflexion assez intéressante chez toi qui l'a vécu, tu vois. Voilà. Et en tout cas, ça fait vraiment plaisir que tu partages ça avec nous. C'est extrêmement particulier et ouais, ça suscite la curiosité chez moi, en tout cas, d'entendre ça. Alors bon, effectivement, juste pour apporter une petite confirmation de ce que je disais avant, il semblerait qu'on expose le corps quand on l'amène dans la grotte qui va accueillir le corps où ça va être enterré. Hein,
d'accord.
Et effectivement, pendant ce moment-là, comme ces personnes sont embaumées, elles sont pas cachées, tu vois, et elles sont habillées bien, forcément, comme on voit des fois chez nous aussi quand t'as les cercueils avec une sorte de protection en verre dessus, tu sais, où tu peux voir la personne et où elle
ouais,
est apprêtée,
ouais. Bah,
maquillée.
Il est aussi... Enfin, ils ont pour habitude de mettre le mort dans un linceul décoré à l'or aussi. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de vols dans les sépultures.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'après, il y a eu... au lieu de mettre les cercueils dans des grottes, on a fini par les accrocher aux falaises ou à faire des trous en hauteur dans les falaises. La même chose que ce qu'on voit à Sagada aux Philippines, ouais. pour mettre les cercueils.
Moi, j'avais lu une théorie qui disait qu'aux Philippines, ça avait été aussi enterré en hauteur pour qu'il soit plus proche du ciel, en fait. Hein.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est... Mais bon, après, voilà, c'est d'entrepôt, machin et tout. Il y a aussi beaucoup de théories différentes et c'est très difficile de savoir... Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ou enfin bon, bref. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Hein. Je suis vraiment content de t'avoir invité. On apprend beaucoup de choses. Mais on va peut-être sortir de la mort maintenant, parce que bon, voilà, c'est quand même très spécifique. Alors, t'as pas été voir que des morts à Salavézi quand même.
Non. Même
si c'est moi qui t'ai lancé dessus, donc c'est ma faute.
Même en pays de Raja, je n'ai pas fait que ça. J'étais resté une bonne semaine, je crois, à Rontepao. Enfin, un petit peu plus longtemps que prévu, du fait que j'ai été malade.
Ouais. Alors, tu dis que t'es resté. Alors, tu nous as parlé avant. T'étais dans un village, t'habitais chez des gens. T'es plutôt dans un hôtel.
J'étais à l'hôtel, une petite auberge.
Ah, donc il y a des hôtels même. Parce que ça a l'air quand même assez isolé, certains de ces villages. Hein.
À Rontepao, c'est quand même relativement touristique. Hein, la journée, tu fais pas 500 mètres sans croiser un blanc-bec dans la rue quand même. C'est pas Bangkok ou Bali. Enfin, j'en sais rien, je suis jamais allé à Bali. Mais bon, voilà, c'est touristique. Il y a de nombreux hôtels de tout niveau, des pas chers comme des plus luxueux pour accueillir les touristes. Les villages alentours, moins. Donc moi, je suis resté à Rontepao en permanence. J'ai regretté après coup, en fait, parce qu'à la fin de mon séjour, je suis allé un peu me balader sur les hauteurs, un village qui s'appelle Batutumanga. Donc j'étais monté là-haut en transport, en minibus, en bémo, comme ils appellent ça. Et j'étais redescendu à pied et il y avait quelques pensions dans ce village qui avaient une vue magnifique sur la région et ça aurait été plus paisible que Rontepao. Parce que Rontepao, la région autour est très jolie, c'est vert, c'est la jungle, quoi. Mais la ville en elle-même n'est pas très intéressante. Après, c'est un peu bruyant, enfin, c'est pas non plus la cacophonie. S'il y a beaucoup de coqs et de chiens bruyants, mais...
Ouais, comme partout.
On ne fait pas les grasses matinées qu'on espérerait, mais c'est souvent le problème à la campagne. C'est un problème de citadin qui a une mauvaise idée de la campagne.
Eh ben ouais, exactement. La campagne, c'est tranquille. Ben non, la campagne, tu te lèves avec le soleil, hein, si ce n'est avant.
Voilà.
Mais bon, c'est marrant quand même, ça va être sympa. Je vois comme ça des images, je me dis que tu dois pouvoir faire pas mal de trek là-bas dans ces régions.
Ouais, on peut faire pas mal de randonnées, alors soit à la journée, soit sur plusieurs journées. On peut partir je crois que ça prend 3 jours pour aller dans une autre vallée qui est à l'ouest de Rontepao, la vallée de Mamasa. Alors, je n'y suis pas allé, mais c'est censé être culturellement assez proche, mais moins touristique, parce que c'est pas très éloigné, c'est à 60 km à l'ouest. Mais en fait, si on veut aller aux deux en transport, sans marcher, ça prend beaucoup de temps, parce que la route pour y accéder, pour aller d'un endroit à l'autre en voiture, tu as peut-être 300 bornes à faire, hein, quelque chose de ce genre. Voilà, y a aucune route directe. Donc, la plupart des touristes
n'y vont pas,
ils vont à Rantepao et ils continuent après vers le nord. Ouais. Donc on peut faire ça en plusieurs jours, autrement on fait des randos à la journée, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Ce que font énormément de personnes aussi pour visiter tous les petits villages qui sont autour avec toutes ces belles maisons, et c'est vraiment magnifique, hein, les rizières. C'est qu'ils louent des petites motos en fait, c'est les motos avec les vitesses
automatiques.
Voilà, c'est des 100 cm cubes, tous les hôtels louent ça pour une somme très modeste, hein, c'est 4 ou 5 euros la journée. Bon, c'est pas plus mal d'essayer de penser à avoir un permis international avant de partir, quoi, qu'il n'y a pas...
Dans ces pays, on te le demande rarement, quand même.
À Sulawesi, rarement. À Bali, c'est un problème. C'est pas...
Ah ouais, vraiment?
Ouais.
Parce que moi, aux Philippines, j'ai joué des grosses motos et j'avais juste mon permis suisse. On l'a même pas demandé.
Non, mais à Bali, on te le demande non pas pour t'assurer que tu as le droit de conduire une moto, mais en espérant, en fait, que tu ne l'aies pas. Et puis,
tu dois payer un peu plus cher.
Ah, c'est la corruption. Les flics arrondissent leur fin de mois avec ça. Sulawesi, c'est relativement rare, mais ça arrive. Tu peux quand même te faire arrêter, donc c'est pas plus mal d'avoir... surtout qu'il suffit d'y penser, ça coûte rien.
Ouais, puis si on voyage, hein, c'est quand même pratique d'en avoir un tout le temps. Hein. Si on voyage régulièrement, ça coûte pas si cher.
Donc, avec ces motos, c'est super pratique. Tu vas partout, parce que tu peux aller à peu près partout aussi en transport en commun, ou bien pour les routes principales. Et puis après, tu trouves ce qu'ils appellent des objects, donc c'est des mototaxis. Mm-hmm. Bon, ça prend plus de temps, c'est moins flexible.
Ouais, c'est vrai que l'indépendance, c'est pas trop mal des fois si on n'avait pas envie de perdre trop de temps. Si je suis la carte un peu, quand tu vas plus au nord, t'as une ville qui a l'air assez grande qui s'appelle Palopo.
Alors,
et tu n'y as pas été, c'est ça?
Attends, Palopo...
Bon, je sais pas, ça semble être plus ou moins sur la route, mais... Alors, je tiens à dire que Google Maps, c'est vraiment génial. Mais étrangement,
j'ai vu sur la carte, non, j'y suis pas du tout allé là.
Ouais. Mais étrangement, Google Maps, c'est fou. Hein. Je sais pas si t'as eu le même truc, mais quand tu te mets à voyager à certains endroits, tu remarques que c'est pas si précis que ça, et il y a plein d'endroits où il y a rien. Hein. C'est fou.
Effectivement, à Sulawesi, c'est le cas à pas mal d'autres endroits, ils ont dû mettre sur la carte à peu près 5% des communes qui existent, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Moi, à Palawan, j'étais avec mon truc, pourtant je recevais le message satellite, mais j'étais au milieu d'une grande étendue blanche, sans savoir du tout où j'étais. C'est vraiment très régulier, c'est là qu'on se dit que... On espère qu'un jour, ils arriveront à cartographier le monde, ça serait quand même pratique. Je Non, mais c'est vrai, pour faire des podcasts, c'est super pratique quand même. Tu vois, c'est mal fait, quoi. Je sais pas.
Non, mais même des fois, tu trouves des infos sur des forums, on te parle, et puis voilà, tu regardes sur Google Maps où c'est pour enchaîner et tout, et Google Maps ne sait pas où c'est. Voilà.
Ouais. Mais c'est ça qui est génial en même temps. Tu vois, on vit dans un monde actuellement où, tu vois, il y a un auditeur qui m'avait dit, ouais, on vit dans un monde où presque tout a été visité et tout ça. Et c'est là que quand tu te rends dans des endroits qui, pourtant, tu dis qu'ils sont relativement touristiques quand même, il faut se débrouiller un peu comme ça, t'as pas forcément des cartes, tu sais pas forcément comment te déplacer et tout. Et c'est ça qui est quand même génial, on a le privilège d'être encore dans un monde qui est pas... où il n'y a pas des arrêts de bus tous les 500 mètres.
C'est vrai, parce que c'est un peu un des charmes de Sulawesi aussi. Enfin, le fait que... ce que je disais au début, je crois faut compter un mois quand même pour traverser toute l'île du sud au nord ou du nord au sud, peu importe. On peut réussir à compresser ça en 3 semaines, mais en dessous c'est pas réaliste. Donc du coup, il y a pas tant de monde que ça. Quelque part, il y a juste le bon nombre de touristes. Enfin, pour moi, à mon sens, ouais. J'aspire pas non plus à des endroits où je suis le seul blanc-bec. Donc voilà, on rencontre des gens sympas, mais pas trop, juste ce qu'il faut.
Ouais, puis bon, accessoirement. Les trajets, et on oublie souvent de le dire dans les voyages, souvent on te dit voilà, il faut 10 heures de trajet, alors tu dis super, alors bon, déjà c'est si tout se passe bien, et après 10 heures de trajet là dans les endroits un peu montagneux, t'as quand même tendance à être fatigué, hein.
Oui.
C'est pas que tu fais un trek direct après, hein.
Oui,
et ça aussi, si tu voyages trop vite, honnêtement, c'est quand même hyper désagréable. Chaque fois, les moments dans mes voyages où voilà, c'était un peu ristret, généralement pour rentrer à l'hôtel, pour aller prendre l'avion le lendemain, ce qui s'est passé aux Philippines notamment, quand tu te mets à faire en une journée, que de la route, changer de bus et tout. Et s'il y a un truc qui fonctionne pas, tu sais que tu rates ton avion, c'est pas agréable. Donc du coup, ouais, c'est mieux de faire un mois que trois semaines, je suppose, aussi dans des endroits comme ça pour avoir un peu le temps de pouvoir se perdre et d'avoir des problèmes.
Il y a des gens qui ont la bougeotte qui doivent toujours bouger d'un endroit à l'autre.
Ah ouais, tu peux te faire taper un record en deux semaines peut-être.
J'en ai croisé, enfin comme partout, on en croise toujours qui débarquent et puis qui. Où tu vois souvent des questions sur les forums de voyage, des gens qui te demandent des horaires super précis, des bus ou des bateaux pour aller après aux îles Togian. Et je dis oui, enfin, non, il n'y a pas d'horaire hyper précis. Et puis quand même, mais pourquoi tu veux savoir avec autant de détails? Ah, parce que je veux faire ça, ça, je dis non, mais enfin, oublie. C'est... Les bus, ils tombent en panne, les bateaux aussi. Enfin, il faut de la marge. Autrement, tu mets le doigt dans un engrenage où ça va être une vraie galère.
Ouais, mais bon, c'est vrai, quand on voyage, on a généralement un temps, ben voilà, qui, le temps, ben, c'est souvent à cause de l'argent qu'on est limité, puis notre place de travail aussi, qu'on n'a pas forcément envie de perdre pour un voyage.
Le temps est limite.
Voilà, puis on a envie de faire le maximum de trucs. Moi, je vois là, pourtant, je vais trois mois entre le Canada et les États-Unis, et j'ai déjà l'impression de pas avoir le temps, quoi. Pourtant, je passe trois mois. Au moins, tu me diras, le Canada, c'est très, très grand. Mais c'est vrai que c'est horrible, le voyage, c'est aussi des choix. Et peut-être quand t'as voyagé un petit peu, tu te dis, bon, ça, je vais pas le voir. Peut-être que je retournerai un jour dans le pays, j'irai le voir. Mais quand tu voyages pas tant, tu sais, puis tu sais que c'est peut-être un voyage et qu'après, il faudra attendre trois ans pour en faire un autre. T'as envie de faire le maximum pour en prendre plein les yeux et tout ça. Et je comprends parce que c'est une inquiétude normale. Tu vois, t'as peur de louper un truc. Je suis passé par là, je l'ai pas vu et tout ça. Enfin, c'est compliqué. Alors, nous, on a peut-être le privilège d'avoir un peu plus voyagé et puis d'être un peu plus calme là-dessus, mais.
C'est quelque chose qu'on apprend avec le temps en voyageant. Au début, on veut tout voir et puis après on veut surtout y prendre du plaisir.
C'est le principal.
Voilà.
Alors bon voilà, je t'ai parlé de Palopo et finalement tu n'y as pas été, donc non, ça a servi à rien du tout que je te parle de Palopo.
Palopo, alors je ne sais pas si certains touristes vont à Palopo, mais enfin globalement tout le monde suit à peu près la même route, enfin comme dans beaucoup d'endroits.
Exactement. Donc si un auditeur veut aller à Palopo pour venir en parler sur Voyagecast, il est bien entendu invité cordialement à en parler. On ne sait pas, je vais dire, tu sais, une grosse agence de voyage, je vais envoyer des auditeurs pour faire des podcasts spéciaux à l'autre bout du monde. Bon alors. Palopo, voilà. Alors après l'endroit dont tu nous as parlé, avec voilà toutes ces cérémonies et tout ça, t'as été plus au nord. C'est quoi ton prochain arrêt? Parce qu'il y a l'air d'avoir des réserves quand même assez grandes entre deux. Tu t'es arrêté dans une ou deux.
Ce que font la plupart des gens depuis Rantepao, c'est qu'ils prennent un bus pour aller directement jusque Poso, qui est au bord de la mer. Je sais pas comment il y a un morceau, un golfe qui rentre dans Sulawesi. Je ne sais pas comment
là, c'est déjà en hauteur, tu es déjà à peu près aux trois quarts du pays, à peu près, entre la moitié et le trois quarts,
ouais, voilà.
Dans la
donc,
hauteur.
Mais
et
bon,
bien
pour
au milieu,
aller à...
par contre.
Ouais, c'est ça, ouais. Et bon, pour aller à Poso, c'est une histoire comme 13-14 heures de bus dans les montagnes.
Ouais, ouais.
Donc, c'est un peu long, quand même. Donc, moi, je m'étais arrêté un peu avant à Tantana, qui est une ville qui est au bord du lac d'Anao. Vraiment très peu de monde s'arrête là. Ça coupe pas vraiment le voyage en deux, hein, parce que c'est quand même déjà une dizaine d'heures de bus pour aller jusque là. Le lieu est agréable, le lac est sympa, on voit des pêcheurs, il y a une cascade assez jolie aussi dans la région. Bon, c'est pas exceptionnel, mais je me suis arrêté une journée pour faire un petit break sympa.
Ouais, si on a le temps, ça vaut toujours la peine de s'arrêter, de manger,
ouais,
de se reposer un peu, c'est agréable.
Alors après, il y en a qui vont... Il y a le parc national de Lorelindu qui est donc à l'ouest de Tantana, où il y a pas mal de stèles assez spécifiques à la région à voir. J'y suis pas allé, c'était assez compliqué. Enfin, il y a deux solutions pour y aller. Soit on y va avec un guide et une voiture, mais les sommes de bandées sont quand même relativement élevées pour l'Indonésie, en tout cas. Enfin, on a l'impression... guillemets que ça vaut peut-être pas forcément le coup. L'autre solution plus économique, c'est de louer une moto. Donc moi, j'y suis pas allé, mais j'ai discuté avec un Français que j'avais croisé avant, que j'ai recroisé après, et qui m'a dit, bon, c'était sympa, t'as un peu l'impression d'être, entre guillemets, un peu plus à l'aventure, mais pour y aller, c'était quand même une route complètement pourrie, même en roulant tout doucement en moto, il est tombé trois fois, enfin, faut... voilà, faut être motivé. Ça peut être sympa, mais et en arrivant sur place, on voit pas non plus monts et merveilles. Mais il y a toujours un côté sympa dans les endroits justement où pas grand monde ne va. Non pas par snobisme, mais parce que bah voilà, t'as pas un sentier tracé où tout est fait pour toi et que t'es sûr que tout va marcher comme ça. Il y a plus d'imprévus qui arrivent.
Bah alors après voilà, t'arrives à Poso.
Voilà, donc après...
Alors, juste un conseil pour les auditeurs, ne tapez pas Poso sur Google Images. C'est genre, je sais pas, il y a dû avoir une tuerie ou un truc comme ça. Je ne tombe que sur des images sincèrement horribles.
Il y a eu quelques fois des problèmes dans la région.
D'ailleurs, ah ouais, mais vraiment trash. Hein.
J'ai pas cherché récemment, mais...
Ben, évite. Sincèrement, c'est des trucs qui valent vraiment pas la peine d'être vus.
C'est pas ça que j'ai cherché. En fait, voilà, si on regarde les conseils aux voyageurs de notre cher ministre des Affaires étrangères français, le milieu de l'île de Sulawesi est orange. Orange, ah. Ça veut dire déconseillé sauf raison impérative.
Bon, je suppose que traverser le pays, ben ouais, t'as pas tant de choix en même temps.
Voilà, alors après, je ne suis pas un expert en la matière, mais ça semble quand même, j'allais dire, grandement exagéré. Il y a eu des problèmes dans cette région, si j'ai bonne mémoire, il y a une dizaine d'années, avec des mouvements plus ou moins indépendantistes. Il arrive de temps à autre qu'il y ait encore quelques...
Alors, juste pour les auditeurs qui voudraient savoir, c'est effectivement à partir de 1999, une organisation musulmane qui a diffusé des vidéos qui sont horribles, des atrocités qui ont été commises par des chrétiens, et il y a eu une sorte de djihad, hein, visiblement, il y a eu des massacres jusqu'en 2005.
Ouais.
Depuis là, enfin, il y a eu une sorte de, je sais pas, amnistie, enfin... Je sais pas, il y a des accords signés entre les musulmans et les différentes communautés religieuses pour qu'ils arrêtent de se massacrer, visiblement. Ça a l'air plutôt calme, je suis en train de regarder les actualités, ça a pas l'air... Mais c'est pour ça que les photos sur Google Images sont vraiment dégueulasses et... Berk, j'aurais pas dû taper ça sur Google. Il y a des fois... Non mais sincèrement, il y a des fois quand même où je me dis... Alors, il y a peut-être un filtre que j'ai désactivé quelque part, mais des images comme ça, sincèrement, j'ai pas envie de les voir dans ma vie, quoi.
Ouais,
Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais...
Ouais, non, c'est vrai, vraiment. Tout à fait.
Je ne comprends pas ça. Quand tu vois qu'ils nous embêtent avec des droits sur YouTube, ils pourraient quand même... Enfin, je sais pas. Bref, on sort du sujet, mais n'allez pas chercher ça sur Google. Et visiblement, ça a l'air plutôt calme.
Oui, bah c'est que ça reste quand même une région relativement touristique. À ma connaissance, si on lit ce qui est mis sur le site du ministère des Affaires étrangères, les touristes n'ont jamais eu le moins... Enfin, les touristes n'ont jamais été la cible de quoi que ce soit quand il y a eu des problèmes. Et les problèmes, donc tu dis 2005, voilà, ça commence un peu à dater.
Oui, ça change très vite. Hein.
C'est un peu le problème, ce que je reproche souvent aux conseils, aux voyageurs qu'on nous fournit, enfin, qui sont très utiles parce qu'on n'est pas... On n'est pas un expert en géopolitique, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde entier. Mais voilà, tu regardes ça, là c'est en orange, tu te renseignes, bon, tu découvres que bon, les touristes, il y en a plein qui vont là, il n'y en a jamais un seul qui a eu le moindre problème. Donc après, tu en arrives à te dire que bah, dans ce cas, tout ce qui est orange, quel que soit l'endroit du monde, c'est n'importe quoi, il n'y a aucun problème, j'y vais. Et ce qui n'est pas vrai en fait.
Ce qui n'est pas vrai. J'en avais parlé quand j'avais parlé des Philippines, mais Palawan, qui est une île où il y a vraisemblablement un problème, je suis arrivé juste dans une ville où c'est les habitants eux-mêmes qui m'ont dit c'est pas forcément nécessaire que tu ailles plus au sud.
Oui, parce que tu avais essayé d'aller au sud de...
Voilà, exactement. Donc je suppose qu'à certains endroits, il faut vraiment quand même parler avec les gens qui généralement eux-mêmes, s'ils savent qu'il y a un danger, les gens, pour la plupart, la grande majorité sont des gens tout à fait gentils, ils vont te dire d'éviter d'aller à certains endroits ou par exemple moi-même dans la ville où j'étais, on m'avait dit la nuit, reste dans ton machin, ne sors pas. Je pense pas qu'il y aurait eu de danger, tu vois, mais c'est vrai qu'il faut bien voir ça. Enfin, surtout, ce que je regrette avec ces choses-là, j'imagine que si je dis à maman que je vais là et que je lui dis « Ah tiens, demain, je suis à Poso » et qu'elle tape ça sur Google Images pour savoir où je suis, la pauvre va se faire du souci extrême, alors que c'est des trucs qui datent de 2005. Enfin, c'est ça qui est dommage.
Ah, c'est notre sacré principe de précaution. Voilà.
Exactement. Et il y a... Alors, c'est un épisode de VoyageCast qui est très long, ce qui est un enregistrement d'un débat, et il y a un diplomate à un moment qui vient parler justement de ces zones rouge, orange et tout ça. Et il explique un peu les problématiques qui entourent ça, parce que généralement, c'est les diplomates du pays en question qui donnent leur feu vert pour changer les zones. Mmh. Et autant changer une zone verte en zone rouge, ça se fait en 2 heures.
Ouais.
La faire changer en zone orange, puis en zone verte, c'est extrêmement long. Et il y a voilà, ce principe de protection. Et si on le met vert et qu'il y a un problème, on va nous accuser de faire n'importe quoi. Donc, on laisse orange. Et ça va certainement rester orange ad aeternam. Hein.
Oui, oui, oui.
Ça ne va pas changer.
C'est ça.
Il y a 2000 personnes qui sont mortes quand même en 5 ans. Hein. Donc, voilà, si c'est pas...
Ah ben, à la période des problèmes, oui, c'était...
Voilà, exactement,
ça fait
9 ans...
C'était sans doute l'endroit où mettre les pieds, effectivement.
Bon, bref, c'était une petite aparté, mais c'est important quand même de le savoir, si vous allez dans la région-là. Allez jeter un œil quand même pour savoir s'il y a des trucs qui se sont passés dernièrement, hein, comme d'habitude, avant de partir en voyage, on se renseigne. Visiblement, il n'y a pas de problème, qui a été, tout ça. Ville côtière, donc, Pozo, grande ville, petite ville.
Or, je ne saurais pas dire combien d'habitants, c'est une petite bourgade, je ne suis pas resté, hein. C'est sans intérêt.
D'accord. 200 000 habitants, donc beaucoup plus petit quand même.
La plupart des gens passent la nuit là, vu que moi je m'étais arrêté avant à Tantana, en fait je suis allé à Poso et j'ai enchaîné d'office vers Ampana, qui est le port pour embarquer, pour aller ensuite aux îles Toguyan.
Îles Toguyan, donc qui sont...
Alors, c'est en plein milieu du golfe. Google appelle ça Teluktomimi.
Voilà.
Au niveau de l'équateur, l'équateur passe un peu au-dessus des îles Toguyan. J'ai le souvenir que le ferry a fait sonner la sirène quand il a passé l'équateur.
Et alors là, c'est une île qui est aussi une réserve nationale où c'est ouvert, donc je suppose...
Oui, c'est un parc national. Si j'ai bonne mémoire, le parc national a été instauré parce qu'il y a eu, comme à nombreux endroits sur la planète, énormément de pêche à la dynamite et au cyanure.
Ah oui.
Donc, ils ont fini par serrer la vis et d'essayer de protéger la région. Et c'est assez marrant d'ailleurs quand on y est, c'est sur l'île sur laquelle je suis allé à Kadidiri, parce que c'est tout un ensemble d'îles, hein. Donc c'est une des îles principales des Toguyan. Juste en face, on voit une toute petite île où il y a une maison au milieu de l'île, et en fait ce sont des policiers indonésiens qui sont là et qui regardent avec leurs jumelles voir s'il y a du monde qui fait de la pêche. Donc leur commissariat est situé à un endroit plutôt sympathique, un peu isolé certes.
Tu as un endroit comme ça aux Philippines aussi, à Palawan. Tu as un endroit aussi justement qui est ouvert seulement quelques mois par année où tu dois payer un permis, etc. Et où tu as aussi une sorte de police comme ça au milieu du truc en fait.
D'accord. Je pense pas que je l'avais vu.
Ah, j'ai pas été non plus, hein, je l'avais lu. Mais
d'accord.
Par contre, là, sur les photos, ça ressemble un peu. Alors, ça me fait penser aux Philippines parce que je viens d'y aller, mais ça ressemble aussi un peu à quelques endroits aux Maldives aussi, avec ces grandes plages, ces bateaux. Hein, ça s'appelle comment les bateaux d'ailleurs là-bas? Parce que dans chaque pays, ils se ressemblent, mais ils ont pas le même nom.
Ouais, alors ça, c'est une colle, je sais plus.
Ah, j'ai réussi à t'apprendre. Non, c'était une question bête comme ça.
Je sais pas, je me rappelle même plus, en fait. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'ils sont faits comme les bateaux aux Philippines dont j'ai oublié.
Ah oui. Enfin, en tout cas, sur les photos que je vois, c'est vraiment
pareil,
la même
avec
chose.
Avec les deux flotteurs en bois sur les côtés.
C'est ça, et qui sont très très beaux.
J'ai souvenir que le moteur est aussi bruyant, mais pour le reste, j'ai oublié.
Il tombe aussi souvent en panne, je pense.
J'ai pas eu de panne là aux Philippines, ouais, j'en ai eu plusieurs, mais là non.
Ah voilà.
Enfin, le premier bateau que tu prends pour aller au Toguyan depuis Ampana, c'est un ferry. Hein.
Voilà. Mais après, entre les petites îles là,
voilà,
c'est des petits bateaux.
En fait, il y a d'abord, depuis Ampana, c'est relativement simple pour y aller. Il y a des bateaux en saison, en tout cas de juin à septembre, tous les jours, qui relient Ampana à Wakai, qui est la ville principale des Toguyan. Et après, de Wakai, là, on enchaîne avec... alors, pour ceux qui vont à Kadidiri, qui est l'option la plus rapide, la plus simple, la plus proche, les hôtels ont leurs petits bateaux pour t'amener. Enfin, il y a trois pensions, il y a trois auberges sur Kadidiri. Et pour aller aux endroits plus éloignés, faut trouver un bateau. On peut être amené à passer la nuit à Wakai pour continuer.
Okay.
De l'autre côté, par contre, quand on repart des Toguyan pour rejoindre Gorontalo, qui est donc au nord-est des Toguyan, les bateaux sont beaucoup moins fréquents. Hein. C'est deux par semaine.
Ah ouais.
Alors, il y a une autre option que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en faisant des recherches, avec des bateaux sur des journées décalées qui arrivent à une ville qui est un peu plus à l'ouest, Bumbulan. Mais bon, la plupart... Et quelque part, il est assez heureux que ce soit comme ça, puisque... Enfin, on ne va pas au Togan pour une journée, en gros. Ça prend... Ouais. Parce que rien que, de toute façon, si tu arrives à Makassar, bon, voilà, si on enchaîne tout, il doit y avoir à peu près 24 heures de bus, quoi, pour aller jusqu'à Mpana. Donc, vu que ça prend du temps pour y aller, quand tu arrives sur place, c'est pas envahi. Oui, tu y restes. Et du coup, tous les gens qui ont un planning... Bon, c'est malheureux pour eux, mais tous les gens qui ont un planning trop serré n'ont pas le temps d'aller au Togan, en fait.
En tout cas, ça a l'air très, très beau. Je suppose que tu as des hôtels aussi. Ça, on n'a pas parlé de prix pour l'instant. Puis c'est vrai qu'on n'aime pas trop parler de prix sur VoyageCast parce que ça évolue tellement vite que ça va être obsolète. Mais c'est plutôt cher.
Non. C'est très raisonnable. Je suis pas très bon pour noter ce que j'ai dépensé. Mais on s'en sort à... Je pense que j'ai dû tourner autour de 15-20 euros par jour. En général, je voyage plutôt catégorie petit budget.
Ouais.
Et là, clairement, non, c'est pas cher. Enfin, on peut trouver des trucs de standing plus élevés, mais c'est pas.
Ouais, je veux dire, pour la beauté de l'endroit et tout ça, tu vois, par exemple, les Maldives, c'est quand même beaucoup plus cher, par exemple.
Ouais.
Bon, là, c'est vrai qu'il faut compter le voyage jusqu'à Bali et tout ça. On n'a pas compté l'avion, mais je pense que si tu veux y rester une semaine, par exemple, ça va te coûter beaucoup, beaucoup moins cher qu'aux Maldives. Et ça a l'air tout aussi beau, en tout cas. Enfin, j'étais seulement aux Maldives, mais ça a l'air très, très beau. Hein.
Ah ben c'est vrai. Enfin, moi, je suis pas, quelqu'un qui va à la plage. J'ai épuisé mon quota dans ma jeunesse. ça me plaisait beaucoup. Je n'y allais pas, on me forçait pas pour y aller. J'étais très content de partir en vacances à la plage avec mes parents. Mais maintenant, j'ai épuisé mon quota. Je ne supporte plus. On va dire globalement. Je suis resté une semaine à Kadidiri et je ne fais pas de plongée. Je suis allé faire du snorkeling, mais je ne fais pas de plongée. Enfin, j'ai un peu regretté après coup de ne pas y aller, parce que c'est un peu l'endroit idéal. Et je ne me suis pas du tout ennuyé. J'ai trouvé ça absolument génial, en fait. L'endroit est très paisible. Donc, à Kadidiri, il y a trois auberges. Il y en a une qui est très... très, très rustique, on va dire, qui est tenu par une famille de local, en fait. Et il y en a deux autres qui sont un peu plus... ça a été construit avec des matériaux qu'on a ramenés d'un peu plus loin. C'est plus neuf, c'est plus propre. Une des deux fait club de plongée aussi. Donc, les prix sont un peu plus élevés. Enfin, de mémoire, celle où je restais, donc tenue par la famille locale, ça devait être autour de 7-8 euros la nuit. Alors c'est tout simple, hein, c'est une petite cabine en bois avec une petite cabane en bois avec un lit dedans. Et
que faut-il de plus quand t'as l'océan à 10 mètres?
Oui, mais bon, après, ça convient pas forcément à tout le monde. Enfin, je sais qu'il y en a qui étaient.
Non, oui, d'accord. Ouais.
Il y en a qui étaient arrivés la première journée, ils étaient là, et puis bon, ils ont trouvé que les toilettes c'était commun et c'était rustique, quoi. Donc ça leur convenait pas, donc ils étaient allés voir à la case d'à côté, qui reste raisonnable aussi. Hein, les deux autres auberges qui sont là, ça doit être le double peut-être au niveau prix. Et c'est très mignon, c'est très bien fait. Le rapport qualité-prix est très bon.
Ouais, il y a l'air d'avoir des marsupiaux aussi sur l'île. Ça se voit, ça? Tu sais, les style opossum là, avec les super grands yeux là. Je pense que ça ne doit pas se voir facilement, ça.
J'en ai pas vu là. On en voit plus au nord, pas au Togan, mais près de Manado, il y a un parc pour ça.
Ah,
je parlerai un peu après.
Ah ouais, volontiers, ça m'intéresse. Ces yeux marrants, ces machins avec les grands yeux là. Donc bon, un endroit quand même agréable à rester. Voilà, un peu farniente.
Ah oui, c'est voilà, pour prendre un peu son temps, se poser. Tu vois, enfin, on peut même aller faire de la rando, monter un peu dans l'île. Et en gros, pendant une semaine, je me suis dit tous les jours, demain, tu mets tes pompes et tu montes. Et puis ben, voilà, j'y suis jamais allé, quoi.
Ah, ça m'est jamais arrivé.
J'ai regretté après coup. Oui, j'ai souvenir que t'es.
Non, mais c'est toujours la même chose. Et en fait. Des fois, c'est un peu... mais c'est mon problème aussi, tu sais, tu te mets des objectifs, tu dis, je vais aller là et tout. Et finalement, il y a des fois juste... Tu sais, c'est tellement beau. Franchement, t'as rien besoin de plus, quoi. Tu te poses, j'aime bien lire, tu te lis un bouquin, tu t'écoutes un truc. Et ça fait tellement plaisir que tu dis, mais Pouf, pourquoi je partirais? Je suis tellement bien ici. Enfin, pour moi, c'est mes vacances, c'est pas que ça, mais ouah, qu'est-ce que ça fait du bien.
Ouais, non, tout à fait. Enfin, puis en plus, je suis tombé sur des gens très agréables. Enfin, des amis que je revois régulièrement depuis, d'ailleurs. Enfin, c'est la première fois, en fait, que je revois régulièrement des gens que j'ai croisés en voyage. Bon,
C'est vrai que c'est rare. Ça m'est jamais arrivé, ça. Ouais. Pourtant, tu fais toujours des rencontres super, quoi.
Oui. Bon, après, c'est pas forcément des gens qui habitent au même endroit que toi, mais là, enfin, là, ce sont des gens qui habitent à Paris et même d'autres qui, des Suisses que j'ai revus, recroisés depuis. Et, enfin,
des Suisses. Il y en a partout, des Suisses.
Ça se marrait bien, quoi. Donc voilà, tu passes du bon temps la journée, le soir il y avait un peu la fête quand même, donc tu te réveilles pas trop tôt le lendemain matin, et puis bon, il fait quand même relativement chaud et humide, donc si tu veux partir faire de la rando, bon bah
faut
voilà,
partir tôt, ouais.
Oui, tu pars pas à 11h quoi, donc tous les jours tu reportes au lendemain, et puis
Et puis voilà, et puis t'iras la prochaine fois, ou pas, et c'est pas grave.
et ce qui est génial, si on loge à l'auberge tenue par la famille, c'est que tu peux partir à la pêche avec le père de famille. Enfin, ils vont pêcher tous les jours pour nourrir les invités midi et soir. Enfin, tout est en pension complète. Il y a rien, il y a que ces trois auberges. Il y a pas de, il y a pas d'habitants sur l'île en fait. Il y a pas.
Ah ouais, d'accord, carrément.
Il y a pas d'eau. Ils partent tous les jours avec un bateau à Wakai pour aller chercher de l'eau et qui ramène. Il y a rien du tout. C'est complètement coupé du monde.
Ah, ça sonne bien là. Tu me fais envie. C'est nul ça.
Après, il vaut quand même mieux parce que ça devient quand même un peu populaire au fil du temps. En juillet-août, ça peut être un peu bondé quand même. Alors,
il faut pas partir en juillet-août. Hein, à peu près partout dans le monde.
Oui, mais disons que là, alors il va pas y avoir 100 000 personnes forcément, mais il y a plus de monde qu'il n'y a de place pour loger les gens, quoi. Donc c'était pas à Kadidiri, mais je suis allé une journée à une île dont j'ai oublié le nom, et là il y avait plus personne. Il y avait deux couples qui étaient là, et ils disaient que 3 semaines avant, au mois d'août, tout était complet et les gens payaient pour dormir sur la plage de l'île.
Waouh.
Alors dormir sur la plage, c'est sympa, j'ai rien contre. Le seul problème, c'est que c'est rempli de sandfly, donc tu te fais dévorer.
Ah ouais, c'est mauvais ça. Alors, à ce qui paraît, c'est quoi déjà, de l'huile de coco dont il faut t'enduire contre les sandfly?
Ah, ça, je connais pas, écoute. Parce
alors
que
c'est ce qu'ils utilisent aux Philippines. D'accord. J'ai pas fait le test juste pour voir si ça marchait. Mais
ouais, parce que les produits anti-moustiques, ça marche pas super en fait.
Ah non, ça marche pas tellement.
Ça marche pas pour les sandfly. Et ouais. C'est vrai qu'à force de se faire bouffer, c'est quand même moyen.
Ah, c'est pas agréable, ouais, puis ça reste longtemps en plus, les marques et tout ça. Bon, bref, passons. Alors voilà, très très joli, île paradisiaque, machin et tout, voilà, c'est beau, tu nous as fait rêver. On part gentiment, après tu prends le bateau, comme nous a dit, c'est pas deux fois par semaine, pour aller à Gorontalo.
Gorontalo, ouais.
Qui est aussi une ville portuaire.
Alors, une dernière chose avant de quitter les Togianes, faut pas oublier avant d'y aller que, évidemment, comme j'ai dit que c'était isolé, il faut retirer des sous avant. Hein. Il n'y a pas de distributeur automatique aux Togianes.
Ou faire la vaisselle.
Et même, deux des auberges ont une machine à carte bleue, mais qui la plupart du temps ne fonctionne pas parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de connexion. Donc, faut arriver avec ses billets, hein, sinon on a des problèmes.
Bah, c'est comme aux Philippines, finalement, à Tonto Palawan, t'as juste à Port-au-Prince où t'as des ATM. Donc,
Exactement. Donc, il y a des distributeurs à Ompana et à Gorontalo des deux côtés. Faut penser à faire le plein avant de traverser.
En même temps, je sais pas ton sentiment là-dessus, mais en tout cas, par exemple, aux Philippines, je m'étais beaucoup inquiété au début en me disant, je vais me ramener avec quand même passablement d'argent parce que je savais pas où j'allais aller, si j'allais avoir des problèmes et tout ça. Et finalement, il semble qu'il y ait quasiment pas du tout de vol à Palawan, par exemple. Alors à Mani, qui est la capitale, un peu plus. Mais là aussi, finalement, tu te promènes avec plein d'argent, mais il n'y a pas vraiment de vol non plus, ou bien enfin.
Non, j'ai pas souvenir. Enfin, même, même à Makassar ou Manado, les deux villes principales. J'ai pas du tout souvenir, même la nuit, qu'il y ait le moindre problème à te promener tout seul en pleine nuit. Enfin, ce sont des endroits relativement sûrs. Enfin, comme partout, il y a forcément des agressions de temps en temps.
Oui, ça peut t'arriver parce que t'as pas de chance, on va dire, mais c'est pas commun forcément.
Oui, voilà.
Que ça t'arrive. On est d'accord, de toute façon, qu'à Paris, t'as beaucoup plus de risques de te faire braquer que là-bas, quoi.
Oui, sans doute.
Sans critiquer Paris, bien sûr, hein, mais c'est quand même assez connu que tu te fais avoir là-bas. D'ailleurs, je ne me rappelle plus quel voyageur, je ne me rappelle plus si c'était Fabrice d'Instinct Voyageur qui est, en revenant à Paris, s'était fait voler son appareil photo ou je ne sais pas quoi, puis ça faisait 6 mois qu'il était en Colombie ou je ne sais pas. Enfin, c'est toujours très drôle. Enfin, c'est très drôle. C'est très drôle parce que c'est là où on ne se méfie pas, qu'on se fait avoir. Mais bon, alors voilà, tu nous as dit ça. Voilà, Gorontalo, ville portuaire. Intéressant, pas intéressant.
Je sais pas, je suis pas resté.
Bof, t'es pas resté.
En fait, le bateau, enfin pour remonter, c'est un bateau de nuit, donc tu prends le bateau à Wakai à 4-5 heures du soir et t'arrives à 4-5 heures du matin à Gorontalo. Et là, en fait, on a enchaîné tout de suite avec un taxi collectif, quoi. On était suffisamment pour tracer directement jusque Manado, à la pointe nord-est de l'île.
Ouais, là, t'es vraiment au bout d'île.
Oui, c'est ça. Il y a des gens qui s'arrêtent à Gorontalo parce qu'il y a un petit aéroport. Donc, ceux qui seraient un peu pressés par le temps et qui ne peuvent pas continuer peuvent prendre l'avion à Gorontalo, mais les vols sont quand même beaucoup plus limités et sans doute plus onéreux que depuis Manado. Et bon, c'est quoi ? Ça doit être à 6 heures de route, Manado, depuis Gorontalo. Donc, c'est pas
c'est vraiment si tu es vraiment à la bourre. Ouais.
Exactement, ouais.
D'accord. Alors, Manado, voilà, dernière ville où tu as été, tu nous as parlé d'un parc.
Ouais. Alors, c'est le parc de Tangkoko qui est au nord-est de Manado. Donc, on y va, on loge sur place. C'est pas très loin, mais ça prend un peu de temps pour y aller quand même. Il n'y a pas de transport direct. Et là, on peut voir des tarsiers. Alors, bon,
ah oui.
Je ne connaissais pas du tout le nom de ce cher petit primate avant. Donc,
c'est pas ceux qu'il y a dans les marsupilami.
Ça doit être ça, sans doute. Oui, c'est le plus petit primate du monde. Ça fait,
voilà.
Ça fait
7
centimètres. On en trouve uniquement en Indonésie et aux Philippines.
Mm-hmm.
Ça ne se trouve pas ailleurs. Ils ont des yeux absolument énormes, qui sont tellement gros, en fait, que leurs yeux ne peuvent pas tourner dans l'orbite.
Donc, ouais.
Ça donne un air étrange. On ne les voit pas la journée, on ne les voit que la nuit. Parce qu'ils se nourrissent d'insectes. Ils peuvent faire pratiquement 360 degrés avec leur tête. Ça, c'est très drôle. Ils sont accrochés à l'arbre et puis d'un coup, ils te voient, ils tournent la tête et fouf. S'ils sont un peu trop stressés de te voir, ils sautent 10 mètres plus loin à une autre branche. Ils ne marchent pas au sol non plus, ils ne font que sauter de branche en branche.
Ouais, c'est très étrange, mais je trouve ça quand même super mignon, franchement.
Ah oui, moi j'ai trouvé ça. Alors, je me suis quand même posé des questions après y être allé, parce qu'en fait, quand on arrive au parc, ce que font la plupart des gens, c'est que le soir, donc ils vont partir avec un guide pour aller voir les tarsiers, vu qu'on peut les voir qu'une fois la nuit tombée. Et alors bon, moi j'étais tout seul avec un guide, on se promenait dans la forêt, voilà, ils cherchaient où trouver des tarsiers. On a fini par se retrouver autour d'un ficus où on devait être 20 touristes autour du même ficus, avec tous les guides qui avaient leurs lampes torches, et qui éclairaient les tarsiers qui étaient dans l'arbre et qui avaient l'air, je dois dire, plutôt terrorisés, en fait. Donc, voilà. J'étais content de voir les tarsiers, mais j'étais plus convaincu que ça de...
C'était peut-être pas la meilleure façon de les voir.
Exactement.
Et ouais. Est-ce qu'ils t'ont hypnotisé? Parce que je crois que dans les marsupilami, ils hypnotisent les gens pendant la nuit, en fait.
Ah non, avec moi, ça n'a pas marché. Ça a moins bien marché que les biscuits.
C'est vrai que il y a des méthodes plus efficaces. Bon, en tout cas, c'est très drôle ces petits machins, je trouve. Alors voilà, t'en as vu comme ça. Il y a d'autres trucs à voir dans ta réserve là.
Ouais, tout à fait. Alors donc en général, donc le premier soir, on va voir les tarsiers et on retourne le lendemain dans le parc pour la demi-journée ou la journée complète. Et bon, c'est assez sympa. Bon, déjà, on est dans la jungle. Il y a des lianes, et on peut voir. Alors le soir, en même temps que les tarsiers, on peut voir des mygales aussi. Et la journée, on peut voir. Il y a pas mal de macaques. Il y a plusieurs groupes de macaques. Qui sont plus ou moins sauvages. Enfin, aucun ne sont excessivement sauvages. Ils ont pas peur de l'homme. Bon, les guides veillent sur place à ne surtout pas les nourrir et a priori c'est respecté. Mais d'après ce que m'a dit, enfin, ceux que j'ai vus n'avaient pas peur du tout de nous. Enfin, ils nous regardaient, ils passaient super près de nous. Le guide me disait qu'il y avait même un groupe qu'on n'a pas vu où il fallait faire attention parce qu'il venait de choper ton appareil photo et il se barrait avec.
Ah ouais, tiens, ça aurait pu t'arriver, hein.
Ça aurait pu m'arriver, ouais. Et on peut voir aussi des toucans. Alors ça, c'est vraiment... C'est magnifique. Enfin, moi, j'avais
jamais... Ça doit être joli en nature, ouais. Ça doit être beau. J'ai souvent vu dans des zoos, mais...
Ouais, et quand tu l'entends arriver, c'est assez incroyable parce qu'il vole avec un battement d'aile assez lent. Alors, je sais pas quelle envergure ça fait, mais c'est quand même relativement énorme. Et avant de le voir, tu entends ce toucan arriver et ça fait... assez lentement, et ça m'a rappelé le bruit de pales d'hélicoptère à la fin d'Apocalypse Now, où t'entends un...
Ah. Et... Oh là là, il a des bonnes références, Laurent, déjà.
Et donc, tu es après envoyé ce toucan qui, en fait, il y avait un nid qui était dans un trou, dans un arbre, et il venait nourrir ses petits. Donc, c'était vraiment splendide. Et on peut voir aussi des couscous. Alors, ça, c'est un nom que je n'avais jamais entendu avant.
Répète le mot.
Couscous. Alors, j'ai d'abord cru que c'était le mot en anglais. Quand on C'est un animal qui est un peu une sorte de tête de chien, mais qui est... En anglais, ça s'écrit C-U-S-C-U-S-E. Et c'est vraiment... alors, c'est pas des paresseux, hein, c'est pas la même famille, mais ils sont au moins aussi paresseux que les paresseux. J'ai trouvé ça très, très tordant, parce que, enfin, il faut un guide pour les trouver, hein, parce qu'ils sont tout en haut dans les arbres, on n'a aucune chance de se rendre compte qu'ils sont là soi-même, tout seul. Et ils sont accrochés dans l'arbre, et ils ne foutent strictement rien, quoi. Alors, de temps en temps, ils enroulent leur queue autour d'une branche, ils se font un peu balancer, ils vont manger 2-3 feuilles, mais le reste du temps, ils font rien. Et tu te demandes même comment ils se nourrissent, parce que quand tu vois des singes, ils n'arrêtent pas de courir dans tous les sens et de manger, parce que quand tu es végétarien, que tu bouffes des feuilles, il faut quand même en manger une quantité conséquente. Et là, non, c'est un peu mystérieux.
Bon, en même temps, tu vois, si tu dépenses pas d'énergie, t'as pas besoin de manger.
C'est pas faux.
J'ai tapé couscous et je suis tombé sur du couscous. Il faut taper animal couscous et ça marche un peu mieux. mais ça a l'air drôle. En plus, enfin, je sais pas, t'en as vu de quelle couleur? Parce qu'il y en a des noirs, des blancs, des espèces de bruns.
J'en ai vu deux marron, qui étaient marrons.
Voilà. Ils sont marrants, les marrons. Voilà, oh là, quel jeu de mots. Fantastique. mais ça a l'air très sympa et tu peux les approcher aussi parce que ça bouge pas, ces machins.
Visiblement, c'est quand même assez peureux. Ils nous regardaient, enfin, ils nous avaient vus, donc ils nous surveillaient et ils étaient vraiment tout en haut des arbres. Donc, tu vois, je les ai pris en photo et en zoomant au maximum avec mon appareil photo et j'ai encore dû recadrer la photo après pour qu'ils remplissent la photo. Donc, Alors, mon guide avait des jumelles, avec les jumelles, on les voyait bien. Et en plus, enfin, forcément, quand ils sont haut dans les arbres, il y a plein de branches et de feuilles qui te gênent. Donc, on les voyait quand même pas super bien, quoi. Mais c'est marrant. Enfin, c'est toujours sympa de... Moi, j'aime bien voir des animaux sauvages comme ça. Enfin, j'en ai peu vu parce que c'est pas forcément le genre de voyage que j'ai fait jusqu'à présent. Mais bon, on a beau les voir 20 fois moins bien qu'aux zoos, voilà, c'est des animaux sauvages, ça n'a rien à voir.
Ouais, c'est particulier. Puis je trouve génial quand tu te balades dans un endroit et que tu te dis, si ça se trouve, il y a un machin là derrière. Puis en fait, il y a rien, tu sais. Mais
je sais pas,
il y a aussi toute ton imagination. C'est peut-être moi parce que j'ai beaucoup d'imagination, mais c'est génial, je trouve.
Ah oui, tout à fait. Bah même, enfin, le premier soir, quand il va le soir voir les tarsiers, ça a quand même un côté intimidant, quoi. Hein, parce que il y a du bruit de partout dans la jungle. Dès que tu marches, ça craque de partout, forcément. Mm-hmm.
Tout en des machins qui filent.
Tu sais qu'il y a pas, enfin il y a pas de prédateurs dangereux. Enfin, s'il y a des serpents, mais voilà, c'est le seul risque.
Ouais, c'est limité quand même.
Ça a un côté quand même relativement intimidant. Enfin, sans doute pas pour ceux qui ont l'habitude, mais c'est pas mon cas. Donc c'est sympa. Et puis après, quand on se promène dans la forêt, bah tu vois aussi des arbres absolument incroyables qui sont énormes, des ficus, des je sais plus quoi. Je me souviens, il y avait un ficus à un endroit, en fait il est complètement creux, donc tu rentres dedans et tu peux grimper super haut comme à une échelle. C'est assez drôle.
Ouais, ça a l'air sympa en tout cas d'aller voir des trucs un peu étranges quand même, se balader dans la forêt et tout ça, puis c'était guidé, tout ça. En plus, il y a pas beaucoup de risques.
Tout à fait.
Donc ça a l'air chouette. Et après, donc, voilà, dans la région-là, il y a Manado, mais ouais, bof.
Manado a aucun intérêt, sauf si on veut aller faire les...
Bah, remplir les valises avec des souvenirs pour tout le monde.
Il y a un autre endroit qui peut avoir son intérêt. Je suis allé quelques jours, c'est Tomo. Du volcan Lukon, donc j'espérais aller au sommet du volcan, parce que quand même l'Indonésie, c'est le pays des volcans, c'est le pays au monde où il y a le plus de volcans actifs. Je pense qu'il est difficile d'aller en Indonésie sans voir un volcan avec de la fumée qui sort du sommet du volcan, quelle que soit l'île qu'on choisit. Et bon, malheureusement, en plus, bon là, c'est pas un qui est très haut, hein, donc c'est facile à y aller, il est à 1600 mètres, mais je n'ai pas pu y aller, parce qu'il est rentré en éruption un mois avant que j'y aille, donc il n'était plus possible pour des raisons de sécurité évidentes, d'aller grimper sur les flancs du volcan. Voilà. Ah ben j'ai croisé un guide à Tomon, près de la pension où je restais, qui m'a dit qu'il était allé un mois avant avec des touristes qui ont fait la photo parce que le volcan est rentré en éruption quand ils étaient sur les flancs du volcan et des pierres ont commencé à jaillir et à tomber autour d'eux. Ils se sont barrés en courant avec la frayeur de leur vie, comme on peut l'imaginer.
Ah ouais, ça doit pas être... Non, ça doit être hyper flippant, ça.
Oui, j'aime autant que ça ne m'arrive pas.
Ouais, moi aussi, j'ai le goût du risque, mais pas à ce point, non.
Non.
Du tout.
Mais bon, l'endroit est quand même agréable. Donc, moi, je ne logeais pas en ville, mais en dehors de Tobon, il y a des petites pensions assez sympas. Et il y a quand même des... Alors, c'est pareil, les amoureux des animaux ont sans doute quelques difficultés avec ça. Mais à Tobon, il y a un marché.
Je vois où tu as des serpents à manger.
Ouais, et on trouve, tu peux pas que des serpents, hein. Tu peux acheter, tu vois, à vendre, donc t'as des serpents, t'as des chauves-souris, t'as des rats, t'as des chiens. C'est super bizarre parce qu'ils ont la peau toute carbonisée, je sais pas si c'est une méthode pour les conserver après, donc tu
sais pas, mais les chauves-souris en Afrique, c'était la même chose aussi. Je suis certain qu'il y a des moyens de les apprêter beaucoup mieux que ça, en fait.
C'est écrit dans tous les guides, donc je savais qu'on trouvait des chiens à acheter pour manger donc au marché de Tomon, mais je me promenais sur le marché et à un moment donné je me suis retourné, je me suis retrouvé nez à nez avec 5 chiens alignés sur une paillasse en carrelage et la gueule ouverte et tout carbonisé comme ça. Alors je suis pas spécialement, j'ai jamais eu d'animaux domestiques, je leur veux aucun mal, loin de là, mais j'ai pas forcément non plus excessivement d'attache vis-à-vis des animaux, mais sur le coup, je vois purée, non là, pouf.
C'est particulier, mais si je me pose une question sur la carbonisation, là, c'est que quand ils coupent les machins, parce que oui, vous trouvez tout sur Google, hein. Je vais faire des cauchemars cette nuit, je crois, avec toutes les photos que j'ai vues, l'intérieur semble rouge quand même. Donc c'est peut-être un truc de conservation, comme t'expliques. Hein.
Je sais pas trop.
C'est peut-être carbonisé, tu vois, en vitesse et l'intérieur, parce que l'intérieur a l'air toujours...
Ouais, exact, c'est l'impression que ça donne, ouais. Ouais.
Mou, tu vois, ça a pas l'air sec à l'intérieur.
Ouais. Et tu vois, tu vois ces chiens et ces chauves-souris, et juste à côté, tu vois des cages avec des chiens qui sont encore vivants dedans et qui sont voués au même sort, donc c'est quand...
Moi, ce qui me gêne plus, peut-être, c'est culturel. J'aime pas spécialement les chiens et j'aurais pas spécialement envie d'en manger vu l'odeur que ça a quand c'est vivant. Je me dis que ça n'a pas être bon quand tu manges. Tu vois, je suis déjà un peu plus gêné avec les chats parce que j'aime bien les chats, mais c'est vraiment culturel, hein, tu vois. Là où ça me gêne plus, c'est effectivement quand c'est des animaux de la vie sauvage, genre des serpents, si tu commences à avoir, plus de serpents dans la forêt parce que tout le monde les bouffe, que ça devient industriel, bon, bref, mais les chiens, ouais, voilà, c'est culturel. Hein.
Oui, bah, de toute façon, on est bien placé quand on
voit, par exemple, ils mangent des singes. Ouais, voilà, je vois les singes, là aussi.
Oui. Ah, ben, il y a un dicton, paraît-il, qui dit qu'à Tomon, on mange tout ce qui a quatre pattes, sauf les chaises. Voilà.
Oui, ben, écoute, les photos semblent rendre justice à ça, effectivement. Bon, pourquoi pas. T'as essayé.
Non, ce que j'allais dire, je n'ai pas vu de chiens au menu des restaurants.
Ouais.
Je savais comment, parce que quand on va dans les petits restaurants à Tomon, il y a pas de menu en anglais, hein, donc il faut se débrouiller pour comprendre ce qui est sur le menu en indonésien. Bon, ça s'écrit avec des lettres romaines, donc on n'a pas de difficulté à lire, mais je savais comment se disait chien, et non, il n'y avait pas. Il y avait du poulet, il y avait du porc, mais il n'y avait pas de chien au menu.
Alors bon, je sais pas comment est la conservation sur place et tout ça, mais le serpent, c'est un truc que j'ai toujours eu envie de goûter. Ma sœur l'a goûté en Afrique, elle l'avait expliqué. Ouais. Et ça goûte un peu comme le poulet et le poisson, un truc entre deux. Et ça me dirait encore de manger. Bon, c'est pas... Voilà, j'ai pas spécialement d'attache émotionnelle avec beaucoup de serpents dans ma vie. Donc ça me dérange pas spécialement. J'en avais vu en Chine, mais en Chine, c'est très étrange comme ils sont exposés, enfin c'est dans un marché spécial. Enfin, on parlera avec un ami qui revient de la Chine et du Japon aujourd'hui ou demain. On parlera justement d'un marché à Pékin, c'est spécial là-dessus. Mais bon, bref, ça peut être l'occasion de goûter un truc spécial pour une fois. Bon.
Voilà.
Pourquoi pas. C'est vraiment passionnant tout ce que tu as pu nous raconter sur celui-là. Vas-y, peut-être tu as encore un ou deux trucs que tu peux dire.
Alors après, la dernière chose qui peut intéresser les personnes qui veulent aller à Sulawesi, je n'y suis pas allé, mais il y a l'île de Bunaken qui est au nord de Manado, où beaucoup de monde va pour la plongée. Alors là, c'est beaucoup plus couru que les Togian parce que c'est facile d'accès.
Ah ouais, là, tu vas à Manado et c'est bon. En...
Voilà, exactement. Donc, il y a beaucoup plus de pensions. C'est réputé exceptionnel pour la plongée. Il y a un mur assez incroyable où tu as un gros drop à un moment avec, paraît-il, des choses exceptionnelles à voir. Le seul problème, c'est que c'est juste au large de Manado et sur la plage de Bunaken arrivent les poubelles de Manado. Voilà.
Ah oui, c'est pas vraiment élégant. Ouais.
Non, alors qu'au Togian n'arrivent les poubelles de nulle part.
Ouais. Et ben voilà, grâce à VoyageCast, vous irez à l'endroit où personne ne va et où c'est magnifique. Bah en tout cas, ça a l'air, ouais, non, c'est vrai que ça a l'air joli quand même, Bunaken aussi, quand même, pour la plongée. Il y a des très belles photos de plongée.
Pour la plongée, enfin, j'ai discuté avec de ceux qui avaient fait de la plongée aux deux endroits, il disait, bon, objectivement, la plongée est mieux à Bunaken, c'est absolument exceptionnel, mais bon, voilà, quoi, le reste...
Ça dépend toujours de ce qu'on recherche, hein, effectivement. Ouais, bah en tout cas, merci pour tes conseils, Laurent. C'était vraiment hyper complet, on a parlé, tu vois, je pensais pas qu'on allait parler de certains sujets quand même assez... ouais, vraiment intéressants, profonds, finalement, voyage intéressant, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu. Peut-être, ben, dis-nous pourquoi on doit aller sur ton blog, qu'est-ce qu'il y a de vraiment intéressant. Enfin, on a déjà dit un peu ce qu'il y avait d'intéressant, mais vends-nous ton blog.
Vendre mon blog.
Fais-nous, tu sais, alors... comment on appelle ça déjà? En anglais, on appelle ça le lift speech, tu sais, c'est quand tu rentres dans un ascenseur à quelqu'un, entre le moment où la porte se ferme et le moment où la porte s'ouvre, tu dois faire un speech pour vendre ton truc, tu sais.
D'accord. Donc, il faut que j'expose pourquoi tous les blogs de voyage sont nuls et ennuyeux et le mien est exceptionnel, c'est ça?
Exactement. Sauf VoyageCast, parce que c'est un podcast. Le blog est nul, mais le podcast est très bien.
Effectivement. Bah, disons, je dirais, si j'ai peut-être... bon, je ne suis pas le seul, évidemment, mais si j'ai peut-être une spécificité par rapport à la moyenne des blogs de voyage, c'est que je parle peut-être de pays un peu moins courus. Je ne fais pas que voyager dans des pays en dehors des sentiers battus. Le terme est un peu galvaudé et veut dire tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'affectionne depuis quelques temps. Donc je parle par exemple de l'Asie centrale, je parle de temps en temps de voyages que j'ai fait il y a plus longtemps, ça remonte à 14 ans en 2000 quand j'étais allé en Iran, au Pakistan, enfin des endroits qui, enfin l'Iran si on peut toujours y aller, mais le Pakistan beaucoup moins malheureusement.
Ouais.
La Syrie aussi, bah, quand j'en avais parlé d'ailleurs au moment où tu avais fait le podcast de Laurent Houssin sur la Syrie. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça sort un peu des voyages en Thaïlande. Je n'ai rien contre la Thaïlande, hein, que je connais.
On a déjà lu beaucoup de trucs. Tiens, j'avais pas vu que tu avais écrit sur l'Éthiopie, le Bangladesh aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Birmanie, Kyrgyzstan, Ouzbékistan. Enfin, quand même des pays, voilà, qu'on...
Je retourne dans la région, d'ailleurs. Je vais, au mois de septembre, je pars au Tadjikistan, aller faire un petit tour dans mes montagnes adorées de cette région.
Ben super, ben on est impatients de te lire en tout cas. Ben moi, voilà, j'aime bien ton blog, c'est sympa et t'es à la cool, on va dire, et j'aime bien ça. À la cool, ça fait pas bien, tu sais, mais j'essaye d'expliquer, j'arrive pas, mais enfin,
le but premier du blog, enfin, je vais pas prétendre que j'écris sur un blog pour, entre guillemets, rendre service à l'humanité et leur apporter 10 000 conseils super utiles. Il y a beaucoup de monde qui dit ça, mais je pense que la majorité, on fait ça avant tout pour se faire plaisir à nous. Et heureusement, quelque part, parce que je ne vois pas comment on peut faire quelque chose de qualité si on ne se fait pas plaisir.
Transmettre une passion sans passion, effectivement, c'est très compliqué quand même. Ouais.
Voilà, et donc du coup, ce que j'écris sur le blog, c'est plus, entre guillemets, raconter des histoires. Je ne suis pas forcément très bon pour donner les adresses d'hôtels, etc.
Mais pour ça, il y a Lonely Planet, hein, de toute façon.
Voilà, exactement. Moi, c'est quelque chose auquel je n'accorde pas d'importance, donc je note pas les hôtels où je vais, ni le prix que j'ai payé.
En plus, de toute façon, tu les retrouves jamais, ces machins.
Voilà, puis oui, puis c'est pas pour ça qu'on voyage. Enfin, je sais, quand tu voyages et que tu rencontres du monde, à chaque fois, t'as deux catégories. T'as les gens qui ont des histoires passionnantes à te raconter, puis t'as les gens qui t'assaillent de questions. À quelle heure part le bus pour aller là? Tu dis, mais enfin, on s'en fout, voilà.
Ouais. Eh ben, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, en tout cas, c'est génial. Voilà, passez onechai.fr. De toute façon, il y aura le nom du blog sur le billet de VoyageCast, bien entendu, si jamais vous écoutez ça par là. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était hyper détaillé. Je sais que t'as aussi, ça fait plusieurs jours aussi que t'as relu un peu tes notes pour ça, faire quelque chose. Et ça m'a vraiment fait plaisir. On aura certainement l'occasion de se recoser, pourquoi pas du Tadjikistan quand tu reviendras. Parce que, ben voilà, c'est intéressant et t'auras certainement des histoires, mais pas d'horaire à nous raconter.
J'espère bien.
Et puis, ben voilà, à la prochaine. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon voyage.
Merci.
Ok, ciao, ciao.
Ciao.
Général, général, j'ai fait une découverte ahurissante, regardez.
Ah oui, enchanté, mademoiselle.
Pas elle, ça.
Ah, je vous envie, Hermoso, c'est beau d'être jardinier. Quelques fleurs et vous êtes aux anges.
Je suis botaniste. Et ceci, général, est une nouvelle espèce d'orchidée. Je l'ai appelée Orchidus hermohaïde.
Vous êtes sûr du nom?
Oui.
Et encore merci à Laurent d'être venu sur VoyageCast, c'était vraiment très sympathique, c'était vraiment une très belle discussion, on a beaucoup parlé, c'était génial et personnellement ça m'a donné assez envie d'aller dans cet endroit-là, qui est pas trop touristique, qui a l'air vraiment vraiment chouette, et puis quitte à aller en Indonésie, c'est vrai qu'autant aller quelque part où il y a moins de touristes, mais où c'est quand même safe d'aller. J'espère qu'on vous a donné aussi envie, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, comme d'habitude, si vous avez des questions spécifiques à l'endroit, si vous avez des questions sur Laurent, sur je sais pas quoi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis je me ferai plaisir de faire le lien avec Laurent s'il y a des questions spécifiques auxquelles je ne peux pas répondre puisque je n'ai pas été dans cet endroit-là. Alors pour ce qui est des films de VoyageCast, la musique d'abord. La musique d'introduction, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la musique du film Apocalypse Now, The End de The Doors, et c'est simplement parce qu'il a évoqué que le vol du Toucan lui faisait penser à la fin, avec les hélicoptères, dans ce magnifique film que vous avez certainement déjà tous vu, et sinon c'est absolument à voir pour votre culture cinématographique. Le premier film dont vous avez l'extrait en début d'interview, c'est l'extrait du film The Red, ou plutôt l'extrait de la bande-annonce du film The Red, Red R-A-I-D. C'est un film, justement, qui vient d'Indonésie, qui a été fait là-bas. C'est des arts martiaux, c'est quand même un film violent, donc voilà, regardez-le pas forcément avec vos enfants. J'aime beaucoup la musique de ce film, puisqu'elle a été faite par Mike Shinoda, du groupe de musique Linkin Park, que j'aime bien, j'ai même été au concert et tout, c'est super. Bref, vous en foutez complètement, mais c'est un film qui est plutôt pas mal. Je suis pas vraiment fan de ce genre de film, mais il est plutôt bien fait, et puis c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est de se dire que ça a été fait en Indonésie avec des moyens qui sont plutôt légers, et que franchement, niveau action, ça vaut largement... Allez, hein, 90-95% des films d'action que vous voyez du même style, mais américain. Donc bon, ça peut valoir la peine de regarder, encore une fois, pour votre culture cinématographique. Le deuxième est sorti, mais je ne l'ai pas encore regardé. Ce n'est pas forcément ça que je suis impatient de regarder. Mais bref, un film pas mal. Le deuxième extrait, il s'agit du film Marsupilami. Bon, est-ce qu'on doit dire que c'est mauvais? Non, vous le savez certainement. C'est un très très mauvais film qui rend absolument pas justice à la BD qui, elle, est très sympathique. Mais bon, voilà, j'ai parlé de Marsupilami avec les tarsiers. Bref, c'était pour faire le lien, mais c'est un film qui n'a absolument aucun intérêt. On se dit à la semaine prochaine pour l'Anthropodcast. Ce sera le dernier Anthropodcast que vous écouterez si vous continuez à écouter VoyageCast. Et puis, les prochains Anthropodcasts seront enregistrés ce week-end et eux seront uniquement sur le flux d'anthropodcast.fr. C'est donc le moment presque de changer de flux si vous voulez continuer à écouter Anthropodcast. Et puis, dans deux semaines, si c'est uniquement le voyage qui vous intéresse, quoique... ça pourrait aussi se situer sur l'anthropologie. J'accueille Marion Longo, qui est une collègue de la Villa du Grand Bivouac, qui va nous parler de sa rencontre avec les Hadzabé en Tanzanie. Elle va nous expliquer un peu comment c'est, et ce qui est super intéressant, vous le verrez, c'est que c'est une peuplade, une tribu, elle va certainement le définir beaucoup mieux que moi, qu'on peut aller visiter très facilement en Tanzanie, hein, c'est des circuits touristiques. Elle a eu l'occasion de passer un peu derrière ce circuit-là, de voir comment ça se passe, comment sont ces gens, elle y est passée un bon moment et son regard d'anthropologue est extrêmement intéressant. Ça a non seulement beaucoup de choses à nous apprendre sur ces tribus-là qui sont très intéressantes, mais en plus sur le tourisme en lui-même et notre propre façon de faire les touristes. Vous inquiétez pas, on va juger personne, rien du tout. Vous verrez qu'il y a des trucs vraiment très très marrants qui se sont passés avec elle, des trucs un tout petit peu moins, mais vous inquiétez pas, elle a pas souffert, bien que sûrement, ce qui est super, c'est qu'elle est jeune, c'est une femme, et à 19 ans, elle s'est rendue comme ça, dans un endroit qui est plutôt masculin, on va le dire, elle va vous l'expliquer, elle a eu des petits problèmes avec ça, mais c'est très très intéressant et ça vous donnera peut-être des idées pour vos prochains voyages. Bref, VoyageCast, c'est fini, ça a déjà duré assez longtemps, on se dit à dans une semaine ou à dans deux semaines, et puis ben, en attendant, il commence à faire beau maintenant, si vous aimez pas le foot, sortez. En tout cas, moi je vais sortir, j'aime pas le foot. Allez, à ciao, bonsoir. This is the end.